Vous écoutez
RMC.
RMC.
Ouais, mais de Cristiano.
Ah ben voilà, voilà.
Ce sera Nuno Mendes. Et but. Le gaucher parisien. Et le doublé de Cristiano. Le doublé de Cristiano. Premier poteau. Et le but. Et donc ça fait 4 pour le Portugal à l'heure de jeu.
After Live, intégrale Coupe du Monde.
Nicolas Jamin.
Salut à toutes et à tous, heureux de vous retrouver pour un After Live de 3h avec à mes côtés en direct de New York où il est 15h06, 21h06 en France. Daniel Riolo est à mes côtés. Salut Daniel.
Bonjour les amis.
Maxime Chano est là également. Salut Maxime.
Salut à tous.
Cristiano s'est réveillé. Cristiano a marqué, non pas une fois, mais deux fois. Le numéro 9 portugais, on va en parler bien sûr avec vous au 32-16. Venez évoquer son match, votre soulagement, la rage également qu'il a exprimée après son premier but. Quel sens ça prend? Est-ce qu'on en fait trop autour de Cristiano? Et puis tiens, si on posait une question provoque après ce match, est-ce que ce doublé est une fausse bonne nouvelle pour le Portugal? Là aussi, on pourra en débattre. Hein. Vous pourrez vous énerver contre nous et contre la question telle que je l'ai formulée. En tout cas, on va débriefer tout ça, bien sûr. Et puis, évidemment, ensuite, on va évoquer le match de l'Angleterre. Cette deuxième journée pour les Anglais face au Ghana. Autre leader de ce groupe L, 3 points pour les deux sélections. Julien Laurent sera avec nous. Et puis on évoquera le cas de l'équipe de France, la suite. Faut-il faire tourner face à la Norvège ou pas? Vous savez, la petite mode question du jour, c'est vaut-il mieux finir premier ou deuxième de ce groupe par rapport aux projections éventuelles, hypothétiques? Est-ce que ce genre de sujet vous intéresse ou pas? Et est-ce que ça peut impliquer justement un turnover vendredi face aux Norvégiens? On est ensemble, 32-16 ouvert, en direct sur After Foot TV, en direct sur la chaîne YouTube de l'After. On va commencer par le débrief de la victoire du Portugal. 5-0 il y a quelques minutes, pour être très précis sur les buteurs. Donc Cristiano met un doublé. Et puis nous avons également Nuno Mendes sur coup franc. Nematov contre son gant, le gardien ouzbek. Et Rafael Leao à la 87e minute de jeu. Classement Portugal 4 points premier. Ouzbékistan dernier 0 points. Et puis on va s'expliquer entre les Colombiens et la RDC ce soir. Si la Colombie s'impose, elle sera seule leader avec 6 points. Match à 4h du matin. Allez, c'est parti. Daniel, Maxime, avant qu'on parle de Cristiano, on peut y aller directement aussi. La prestation du Portugal, qu'il faut juger malgré l'adversité, en l'occurrence Ouzbékistan, première Coupe du Monde, est-elle positive, très positive? Est-ce que vous avez été séduit par non seulement les choix de Roberto Martinez, mais également la prestation des joueurs? Daniel.
Eh bien, écoute, c'est la fête foraine, tout le monde est content. On a eu les autotamponneuses, le train fantôme, la pomme d'amour, la barbe à papa. Tout le monde a marqué, c'est la fête. Roberto Martinez va avoir 24-48 heures de compliments qui vont lui tomber dessus. Ça y est, il a retrouvé une équipe, il a fait les bons choix, il a sorti Bernardo Silva pour relancer João Félix, dont j'avais perdu la trace. Ça m'a permis de le revoir. Cristiano Ronaldo a mis un doublé, donc c'est la fête au village. Il a fait fermer les bouches. Tout le monde est fantastique, tout le monde est beau. Tu joues l'Ouzbékistan qui termine avec 0,24 d'expected goal. D'ailleurs, il faudrait faire la liste de tous ces matchs en bois avec les grosses équipes qui jouent des petits qui voient pas le jour, en fait, parce qu'on en est là dans les écarts. On n'a jamais eu des écarts pareils dans une grande compétition. Mais bon, voilà, c'est la Coupe du Monde de la FIFA. Et puis, on n'a pas le droit de le dire, parce que sinon, on nous dit, si vous foutez aux États-Unis, vous critiquez, machin. Bah oui, c'est comme si on suit la Ligue 1. On n'a pas le droit de dire qu'il y a des matchs pourris en Ligue 1. Ou tu suis la Ligue des Champions, t'es envoyé spécial. T'as pas le droit de dire si tu vois un match pourri, quoi. Donc, non, je comprends pas tout ça. Mais, de toute façon, je ne vais pas en démordre. J'ai vu que Christophe Dugarry avait effectué une magnifique sortie sur le sujet. Voilà, moi, ce match, j'en tire rien du tout. Ça ne m'intéresse pas. Qu'on vienne pas me dire que Cristiano Ronaldo a fait un bon match. Non, ils ont mis 5 buts. Même Léao, à la fin, truc drôle hein, quand même. Hein, quand il descendait des autotamponneuses, Léao, il a mis un but magnifique, frappe lucarne, là où il était tout seul, tranquille, confort, en chaussons pour la mettre lucarne. Il était sec, il n'avait pas transpiré, il venait d'arriver. Il était nickel. Il pouvait prendre la photo et puis ressortir. Il avait même pas besoin de la douche. Il pouvait se saper et sortir au resto. Il n'y a aucun problème. La fin de match, il était impeccable, Léao. Les cheveux ont pas bougé. Il n'y avait pas une goutte de sueur. Il a mis une frappe lucarne, tranquille. Bon, ben voilà. Ben écoute, c'est le football de cette première phase. Régalons-nous avec ça. Tirons des enseignements faisons des projections. Contre qui le Portugal va tomber dans 3 matchs? Mais ils arrivent quand les matchs importants, en fait?
Bon, ils vont arriver dès demain notamment.
Soyons patients.
Daniel, demain, sur un après, demain, on démarre sur les dernières. On commence les dernières journées, les J3. Il y aura de l'enjeu, les deux matchs de groupe en simultané, en mode duplex.
Génial.
Là, il y aura un intérêt, il y aura de l'enjeu.
Après,
certains
prévisible.
Devront aller chercher la première place ou la deuxième ou la troisième.
Ah bah non, parce que dans un instant, on dira que certains vont même vouloir l'éviter. cette première fois.
Ok, t'as raison. Tu rejoins.
Mais en plus, ça va être l'épicerie, tu vas voir.
Non, mais c'était prévisible dans ce format Coupe du Monde à 48 équipes et on a souvent discuté d'ailleurs durant cette CAN, où est-ce que la CAN, la Coupe d'Afrique des Nations, a commencé à être intéressante à partir des huitièmes de finale, voire des quarts de finale, et finalement, c'est exactement ce qui se passe avec cette Coupe du Monde. Alors, quand moi, luxembourgeois, a été contre justement le fait d'avoir des petites nations comme l'Ouzbékistan, on peut parler de l'Irak, on peut parler de Curaçao, enfin, il y en a quelques-unes où tu l'as dit très justement, Daniel, honnêtement, c'est pas des matchs de Coupe du Monde. J'avais qualifié cette Coupe du Monde, en tout cas, comme une Coupe du Monde qui devait être élitiste. C'est la plus grande compétition dans le football professionnel, et aujourd'hui, moi, je trouve que tu nivelles le niveau justement par le bas en intégrant ce genre de petites nations. Je suis bien placé pour le savoir avec le Luxembourg, ou est-ce que quand on se retrouve dans un grand tournoi majeur, bon, on n'a pas eu la chance de pouvoir se qualifier, mais si jamais tu nous as mis dans un grand tournoi majeur, on aurait fait figuration, et c'est exactement le cas. Et j'avais fait le bilan un peu plus tôt par rapport à ce Brésil, par rapport aussi à cette équipe de France, aujourd'hui cette équipe de Portugal, où je m'étais étonné de voir certaines nations qui n'étaient pas prêtes en tout cas, qui n'avaient pas encore leur 11 figé au début de cette compétition, mais en fait, j'ai compris. Pour les sélectionneurs, c'est la compétition commence finalement à partir du prochain tour. Donc c'est pas très très grave d'avoir aujourd'hui encore des questions.
Ça permet de voir des buts. Donc après, tu sais ce qu'on va vendre en fait, bah, puisque maintenant la culture du football, c'est celle des records, c'est celle de c'est la Coupe du Monde du bilan chiffré. Alors je vais laisser le bilan chiffré économique qui sera certainement très bon pour la FIFA, mais c'est le bilan chiffré pour les gogos qui regardent les colonnes. On va battre les records de buts. On va battre, donc on dira, oh, quelle Coupe du Monde fantastique. On a des moyennes de 3 buts ou 4 buts par match. Bah oui, avec des raclés comme ça, tu vas les avoir, tes moyennes à 3 buts par match. Tu vas avoir la course au plus grand buteur de l'histoire déglingué en une Coupe du Monde. Déglingué parce que Mbappé peut mettre 2 buts contre l'Irak, et parce qu'il a des matchs faciles, et parce que tous sont des matchs faciles. Ils vont tous exposer les records, alors que pendant 50 ans on vivait avec des records qui avaient du mal à bouger, des Coupes du Monde où les meilleurs buteurs terminaient à 6 buts. Oula, vraiment, on était dans l'âpreté de la compétition, dans la difficulté, dans les matchs serrés. Tu as la régalade permanente.
Ouais, Daniel, j'espère que l'opinion publique s'en rend compte. Ça me fait penser un petit peu, c'était les championnats du monde de natation, les Jeux Olympiques, où est-ce qu'on battait les records toutes les courses à cause des combinaisons. Tu sais, à un moment donné, t'es revenu en arrière.
T'as raison.
Exactement la même chose. Là, aujourd'hui,
on en parlera tout à l'heure, mais c'est l'évolution de tout le monde. Tout le monde est émerveillé par le classement des buteurs. Les cadors sont tous là. Va y avoir une baston incroyable jusqu'au bout. Effectivement, ces records-là qui sont battus. Tous les jours, il y a un record qui tombe.
Je pense qu'il faut prendre des pincettes.
T'as raison, c'est comme les combinaisons dans les piscines.
C'est exactement la même chose. On est venu en arrière.
Là, Ronaldo, c'est quoi son record aujourd'hui? C'est celui d'avoir marqué dans combien? Il en a
6 Coupes du Monde.
C'est ça.
Non, mais ça a du sens en revanche. Alors, ça, en revanche, Daniel, ça a du sens sur la longévité. Certes, tout ça est favorisé par l'adversité.
Ah oui.
Médiocre, voire catastrophique de l'Ouzbékistan.
C'était logique, c'était logique.
Aujourd'hui, mais quand même, il est encore là.
On est d'accord que l'Ouzbékistan aura mis ta maison sur le fait qu'il mette un but.
D'accord.
Ok. Toi, tu mettais ta voiture?
J'ai un appartement, j'ai pas de maison, malheureusement. J'aurais mis l'appartement, c'est pareil.
Toi, la voiture, tu mettais
tous les jours.
Un but. Oui, moi aussi.
Tiens, j'ai regardé, Daniel, puisque c'est intéressant.
Scooter, sans problème.
J'ai trouvé le classement exigé depuis le début de la Coupe du Monde. Ça, c'est intéressant.
Ça, c'est intéressant. Dis-nous tout.
Ça, c'est intéressant. Bon, on n'est pas surpris d'apprendre que la Tunisie est la pire équipe en termes de XG.
Ça, à 0.
0,38 au total, 37.
Et pour autant, c'est pas considéré comme une.
Deux matchs. 0,37 en deux matchs.
Irak, ça doit pas chercher loin non plus.
Alors, Cabo Verde, 0,67.
Ouais.
Cap Verde.
Ah ouais. Mais c'est fou, en fait.
Pourtant, il a marqué des buts, hein, le Cap Verde.
En deux matchs. 0,72.
Ouais, c'est fou. C'est fou.
Panama 0,77, Jordanie 0,92, voilà.
Est-ce que c'est arrogant si
Curaçao est à 1,03, c'est beau.
Est-ce que c'est arrogant si je peux me permettre de dire que c'est des nations qui ne méritent pas d'être à la Coupe du Monde?
Ouais.
Comment?
Non, c'est pas arrogant.
France, Argentine, voilà.
Après, on va me prendre pour quelqu'un d'autant, mais aujourd'hui, t'as des nations qui n'ont rien à faire ici, c'est tout, qui n'ont rien à faire à cette Coupe du Monde, et je le dis encore une fois, ça nivelle le niveau par le bas, c'est tout, il y a pas photo. Et aujourd'hui, tu t'ennuies sur les premiers matchs, tu l'as dit, Daniel, tu vois des buts, tu vois des Cristiano marquer des doublés, des Kylian Mbappé marquer des doublés, les records tombent, mais finalement, quelle
valeur donner à ces records.
Et faut pas être, et c'est pas être rabat-joie, c'est il faut être lucide, il faut dire les réalités. Nous, notre métier, c'est de dire la réalité d'une compétition.
Quel enseignement
ça n'est pas du tout être rabat-joie que de dire ça. Vraiment pas.
Alors, avant de parler de Cristiano Ronaldo, parce que ce match aura au moins servi à ça, à délester d'une pression immense qui pesait sur les épaules du joueur, de ses coéquipiers, João Neves, Bruno Fernandes, Roberto Martinez, toute la sélection, ça a au moins ce mérite-là. Il a marqué, tout le monde est content, lui le premier, le Portugal aussi, ses coéquipiers, sont soulagés de ne plus être la cible d'un harcèlement digital réseau depuis quasiment 5 jours. D'abord, il y a du direct également et un match important, car je ne sais pas si vous avez suivi à distance, les amis, on a la plus belle finale peut-être de l'histoire de la Betclic Elite, du basket français, entre les deux leaders, le Paris Basket et l'AS Monaco Basket, match 5. Il y a deux partout et ça vient de commencer à la Adidas Arena à Paris. On y va avec Diane Carlotti au commentaire. Salut Diane.
Salut Nico, salut à tous. Et oui, c'est parti depuis 1 minute 30 ici à l'Adidas Arena. Écoute, c'est une belle finale. Comme tu l'as dit, c'est l'épilogue. D'un côté, le Paris Basket, champion de France en titre, en quête du back-to-back qui serait historique pour ce club et qui cherche aussi à décrocher le premier trophée de sa saison. Et puis en face, Monaco en lice pour un quadruplé historique également. La Super Coupe, ils l'ont remporté. La Leaders Cup et la Coupe de France également. Ils sont donc là en quête de remporter ce championnat et c'est parti très fort. Ça fait 8, il reste 8 minutes dans ce premier carton et il y a 6-3 pour l'instant pour le Paris Basketball.
Merci, merci Diane. On te retrouve à suivre ce match en fil rouge, bien sûr,
grande
c'est
finale,
important.
Ça, hein. Grande finale. Match 5. Donc le match 5 se joue à Paris.
Parce que Paris a fini devant en saison régulière, tu vois.
Avantage.
Là, tu fais 2-2-1. Voilà, absolument. Exactement. On a épousé le modèle NBA avec deux matchs en moins.
Et maintenant, pour quelqu'un comme toi, ouais, qui est allé au Madison Square Garden,
seul, sans ses copains.
Non, pas seul.
Pas bah, Nico. Sans nous, donc.
Si, parce que le chef est venu avec moi ici.
Ah,
parce qu'on a beaucoup parlé de moi et pas de Pierre Hectane quand même.
Ouais. Moi, je m'en fous, je te félicite. Bien heureux.
Un peu moins.
Toi,
voilà. Ouais, tu vois. Voilà un esprit sain.
Bah ouais, mais au moins, tu m'aurais emmené avec toi.
Je n'ai pas un esprit malade.
Est-ce que la finale du championnat de France manque un petit peu de goût quand on est allé voir l'un des plus grands matchs de NBA des 10 dernières
années? Non, en fait, ce qui me fait marrer, c'est quand je vois. Alors, on aime Paris Basket, tout ça, on vous salue, hein. Mais quand tu as fait Timothée Chalamet, Spike Lee, Adam Sandler et compagnie, et que tu vois à Paris Kev Adams, bord terrain qui se gargarise et compagnie.
Parce que t'étais bord terrain,
c'est bon. Bien sûr, je suis allé saluer Adam, j'ai déjà expliqué.
Non, je te parle
Adam
de Sandler. Avec Lennox.
Avant match, ouais, je suis allé saluer. Ils m'ont dit, voilà, on vous attend.
Je savais pas ça.
On m'a dit à Timothée qu'il veut vous voir, il sait que vous êtes là.
Moi, quand j'ai vu la photo de Nico Jamin, j'ai dû prendre les jumelles pour voir qui jouait.
Tu vois, toi, t'es un esprit malade.
Mais non, mais c'est vrai.
Tu vois la différence, c'est comme ça qu'on situe les esprits sains et les esprits malsains.
Non, mais j'étais déçu.
Tu gargarises des gens qui n'ont pas la chance d'être porteurs.
J'ai été déçu quand tu m'as laissé en me disant je rentre à l'hôtel et puis une heure après, je te voyais justement.
C'est le premier jour. Ça paraît loin et je ne t'ai pas vu avant. C'est bien de vouloir chambrer, mais il faut avoir des éléments quand même. Les gars, Cristiano Ronaldo, alors on va balancer les records. Hein. Il est devenu aujourd'hui le deuxième buteur le plus âgé de l'histoire, derrière Roger Milla. 42 ans, 39 jours, Roger Milla. 10 buts en Coupe du Monde, il dépasse Eusebio, l'autre légende portugaise. Premier joueur, tu l'as dit, Daniel, a marqué 6 buts en Coupe du Monde. Et surtout.
Non, dans les 6 Coupes du Monde, tu veux dire.
A marqué sur 6 Coupes du Monde.
Oui, c'est ça.
Voilà.
Okay.
Et puis, il met fin surtout, dans son cas personnel, et ça qui nous intéresse, à une série de 10 matchs de phase finale, sans marquer Euro Coupe du Monde confondu, énorme disette pour le quintuple Ballon d'Or.
Bon,
quelle importance accordée à ce doublé et surtout quelles conséquences pour la sélection? Est-ce une très bonne nouvelle pour le Portugal ou justement ça va achever de convaincre Roberto Martinez que c'est son numéro 9 absolu?
Écoute, tu vas avoir un raisonnement positif parce que j'ai assez dit ce que je pensais de Cristiano Ronaldo et de ce qu'il ne peut plus apporter à cette sélection. Donc je vais le prendre dans l'autre sens. Pourquoi je vais le prendre dans l'autre sens? Parce que de toute façon, je suis à peu près convaincu que ça ne changera plus maintenant et que Roberto Martinez, pour en plus des raisons qui sont un peu obscures et presque condamnables, de toute façon s'appuiera tout le temps sur lui. Donc essayons d'être positifs et de le voir dans l'autre sens.
C'est allusion au fait qu'il pourrait le rejoindre en Arabie Saoudite,
voilà.
C'est ça.
Vu qu'il va jouer, autant qu'il soit en confiance, bien, même si c'est pas quelqu'un qui a l'habitude de manquer de confiance, mais autant qu'il vive un événement qui va lui faire du bien à lui et à ses coéquipiers, qu'il mette un doublé. Forcément, même quand un attaquant comme lui qui a marqué toute sa vie, et je le rappelle quand même à ceux qui pensent que je suis uniquement un détracteur de Ronaldo, pour moi c'est un des plus grands joueurs de l'histoire. J'ai une admiration folle pour lui, sauf qu'à un moment, c'est comme pour les Rolling Stones, pour les Pink Floyd ou pour tous ces groupes qui continuent à tourner à 65 ans, j'ai un problème avec ça. C'est tout, c'est personnel. Je pense qu'il est plus du tout performant et que moi je l'alignerai pas. Mais vu que je considère que Roberto Martinez en fera son neuf, autant avoir un mec en confiance. Autant construire l'équipe avec lui, puisque de toute façon c'est ce qui va être fait, et voir quelles sont les meilleures associations. On a sorti Bernardo Silva, est-ce qu'il va payer parce que justement l'équipe a gagné aujourd'hui? Est-ce qu'on va en tirer un enseignement que c'est mieux sans lui et on va faire donc avec l'attaque qui était alignée aujourd'hui et Joao Félix? Bon, pardon, mais par ailleurs, je suis pas sûr qu'il ait fait un match extraordinaire aujourd'hui.
Non.
On a un milieu à 3, Joao Neves, Vitinha, Bruno. On remarque par ailleurs, parenthèse, que sur les Parisiens, Nuno Mendes, excellent match. Lui, il est au top, au top. Moi, les deux milieux,
effectivement, tu l'appelles Nuno.
Nuno, pardon. Mendes et les deux autres Parisiens sont quand même moins brillants qu'avec le PSG, mais on est toujours dans la logique du système, d'un jeu qui est...
De ce qu'on leur autorise aussi à faire. C'est ça la différence.
Exactement. Néanmoins, ils restent essentiels, mais ils sont moins en vue qu'avec le PSG. Donc, puisque ça va tourner autour de Cristiano et qu'il faut y aller comme ça, autant prendre les deux buts d'aujourd'hui pour une bonne nouvelle, pour un surplus de confiance et pour, écoute, si les partenaires doutaient un petit peu jusque-là qu'ils les emmènent loin, peut-être que ça va les booster un petit peu.
Mais je pense que c'est surtout les partenaires, ils le savent.
Autour, il va falloir trouver une solution parce que João Félix, j'en suis pas sûr. Raphaël Leao, c'est un joueur dont je doute depuis des années, tant son irrégularité est grande. Bref, c'est également au tour qu'il va falloir être bon. À partir du moment où tu sais que c'est lui, les autres vont devoir jouer et se mettre dans la tête que c'est avec lui.
On doit composer avec lui, voilà.
Ouais, non, moi j'avais dit...
Le débat est tué, le débat est mort sur Cristiano ou pas titulaire.
Non, je pense que je rejoins Daniel dans son analyse. Moi j'avais dit que Roberto Martinez maintenant ne pouvait plus se dissocier de Cristiano Ronaldo et qu'il était pied et main lié malheureusement aux performances de Cristiano Ronaldo. Et on l'avait vu sur le premier match lorsqu'il avait décidé de faire sortir les autres joueurs et pas lui alors qu'il était absolument fantomatique. Après, la réalité, c'est quel jugement on peut donner à ce match-là. On a parlé très justement, l'Ouzbékistan, c'est une équipe qui ne devrait absolument pas être à la Coupe du Monde. Et aujourd'hui, faire un bilan sur une performance où, certes, il ne marque que 5 buts, mais contre une équipe qui, honnêtement, a le niveau du Luxembourg. D'ailleurs, petite parenthèse, on nous a souvent parlé de la Nation League, on se demandait à quoi ça sert. Mais justement, cette Nation League sert à incorporer les petites équipes dans une espèce de compétition qui leur permette, en tout cas, de pouvoir briller, en tout cas, de leur faire plaisir. Ils n'ont rien à faire à cette Coupe du Monde, et je le répéterai une dernière fois, mais honnêtement, je trouve que ça nivelle le niveau vers le bas pour cette compétition. Bref, pour revenir à Cristiano Ronaldo, aujourd'hui, écoute, il a marqué ses deux buts contre une équipe qui est, ma foi, le niveau d'une équipe de nationale en France. Donc, Daniel disait par rapport à ses coéquipiers, mais je pense que les joueurs du Portugal, tout comme le sélectionneur, a conscience quand même que c'était l'Ouzbékistan. Je pense que ça va être important et intéressant de voir ce que ça va donner contre la Colombie, hein, le prochain match, parce qu'il y aura quand même la première place du groupe en jeu. Maintenant... je te dis, c'est très très difficile de faire une analyse de la performance de Ronaldo. Moi, je vois juste
un match nul contre une équipe moyenne et une victoire contre.
Mais oui, mais tout le monde est qualifié. Daniel, t'es obligé d'être qualifié dans cette Coupe du Monde à 48. Si tu te qualifies pas, c'est vraiment que tu t'appelles la Tunisie.
Exactement.
Ou alors tu mets pas un pied devant l'autre. Mais une dernière chose, moi, je veux revenir par rapport à la performance. C'est vrai que sur les 2-3 premières actions, Ronaldo est encore en retard. Hein. Je sais pas si tu te souviens, il y a ce fameux sort de Nuno Mendes qui a fait un match exceptionnel, d'ailleurs en mode Paris Saint-Germain, et tu sens que dans.
Pas d'accord là-dessus.
De quoi?
Pas d'accord?
Pas d'accord que Nuno Mendes a bien joué.
Tu peux Nuno Mendes au niveau du Paris Saint-Germain, en tout cas, avec
la même équipe. Il a été très bon. Ça a peut-être été le meilleur portugais aujourd'hui. Ah, non, en tout cas, je pense qu'il a été intéressant.
Oui, il a été très bon.
Encore une fois, ce qu'il y avait en face.
Tu parlais des Parisiens, tu parlais des deux du milieu, en fait.
Oui.
Ah, tu parlais de Neves Vatinha.
Ah, d'accord. Oui. Non, moi, je peux dire que Nuno Mendes a été très bon, mais quand tu vois un petit peu les déplacements de Ronaldo sur les 2-3 premiers ballons, je pensais qu'il allait encore passer ce match tel un fantôme comme il a fait le match précédent. Puis finalement, il y a ce but qui est très très bien joué. Ouais. Mais c'est là que tu vois qu'il est létal dans la surface de réparation. C'est que Ronaldo, quand tu lui donnes l'opportunité de pouvoir être face au but, il est très bon.
Avant d'accueillir José Fonte, on vient de le rencontrer. On nous a envoyé sa réponse là-dessus, son côté létal dans la surface de réparation. Il y a également Roméo qui est avec nous, supporter du Portugal. Salut Roméo.
Messieurs, bonsoir. Ça fait
bienvenue.
Super plaisir d'être avec vous à l'antenne.
Bienvenue.
Salut Daniel, bonsoir à tous.
Dans l'intégral after en direct de New York, Roméo. Alors, est-ce que le débat
direct de Ponto Combo, voilà.
Ponto Combo New York, il n'y a qu'un pas que tu as franchi. Bravo à toi.
Exactement.
Est-ce que le débat est tué? Il n'y a plus de débat autour de Cristiano Ronaldo après son doublé.
Il y aura toujours débat sur Cristiano. Franchement,
pour toi.
Oui. Enfin, alors. Moi, je disais Adrien Standard, mi figue mi raisin. En vrai, il met les deux buts, ça fait du bien au moral, un peu de confiance, mais. Moi, je suis partisan un peu comme Daniel. Et on est sur un Cristiano en fin de course. Est-ce qu'il devrait le mettre? Est-ce qu'il devrait pas le mettre? Je sais pas. Mais je pense qu'il apporte quelque chose au collectif. Ça, c'est indéniable. Par contre, on sent qu'il est sur la fin. Typiquement, contre la RDC, il a deux occasions. Potentiellement, il doit les mettre. Et après, faut pas se leurrer aussi une chose. C'est que profitons quand même de Cristiano. Il fait sa dernière Coupe du Monde. Les Cristiano, les Messi, il faut juste profiter, kiffer, parce que quand ils seront plus là, on aura que nos yeux pour pleurer.
Ah, mais si tu profites et tu kiffes, et le Portugal ne va pas aussi loin qu'il pourrait l'espérer, parce que, je le répète, c'est un pays de foot que j'admire, parce que avec aussi peu d'habitants, avoir autant de bons joueurs, avoir autant de grands entraîneurs, avoir autant de gens importants dans le foot, c'est un énorme pays de foot, le Portugal.
Totalement. Daniel,
ils ont une telle génération que finalement, ces dernières années, je pense qu'on a raté quelque chose, on a un peu gâché finalement.
Bah, il valide quand même l'Euro 2016, le Portugal.
Oui, après, bien sûr, mais je pense qu'il pouvait même faire plus, moi.
L'équipe sur le papier, elle est magnifique. En revanche,
tu prends un grand coach avec ça. Waouh, franchement,
vas-y, Romeo.
Pour moi, tu prétends être champion du monde hein, avec une équipe pareille.
Avec des filles, on met Paris en bouteille, mais. Après, c'est pas bien de le penser, mais quand Cristiano se blesse, bon, c'était rien de grave. Pendant une microseconde, je me suis dit, et s'il ratait la Colombie et les 16e de finale, est-ce que potentiellement ce serait pas un mal pour un bien? Et on testerait sur
Tu me rejoins dans le raisonnement, mais tout en souhaitant quelque chose.
Quand tu dis que Ronaldo.
Je comprends, c'est humain,
oui, ton sentiment. Il n'y a pas de choix à faire. Le destin.
Il n'y aura pas de débat, c'est comme ça.
Quand tu dis que Cristiano Ronaldo est précieux pour le collectif portugais, là par contre, je suis absolument pas d'accord avec toi. C'est tout l'inverse. Je serais curieux de savoir à l'intérieur du vestiaire combien de joueurs souhaitent la présence de Ronaldo ou non sur le terrain. Ça, c'est une certitude. Et ouais, j'avais mis en avant justement mon expérience par rapport à Diogo Jota. Je répète encore une fois, excusez-moi, quand Diogo Jota, malheureusement le regretté, m'avait dit qu'en gros, ils étaient beaucoup plus heureux de jouer sans Cristiano Ronaldo qu'avec lui. On le voit, il cristallise le jeu portugais.
Mais tant qu'on l'a, profitons-en.
J'espère que ça profitera également à la sélection. Ouais.
C'est pas une attraction, c'est pas la Fédérone qui vient dans ta ville une semaine dans l'année. Hein.
Une chose aussi, il ne faut pas se leurrer. Hein. Cristiano, c'est notre seul attaquant au Portugal. Hein.
Depuis Paoletta
et encore.
Sinon, il faut jouer avec Gonzalo Ramos.
C'est tout le sujet, en fait. Personne ne s'impose derrière lui. Si tu avais un mec, un crack à 30 buts en moyenne dans un top championnat européen, ce serait même plus le sujet. Mais merci, Roméo, d'être venu au 32-16. Tu reviens quand tu veux, évidemment, dans la soirée. Il sera encore question du Portugal. On est là jusqu'à 5h du matin, évidemment. Vous aurez la place.
Joli prénom, Roméo.
De revenir. Roméo, j'aime beaucoup. Revient à la mode.
Très romantique,
prénom, mais... Ouais, romantique, ouais. Mais à la fois.
Roméo Juliette,
littéraire,
j'ai pensé à ça.
Ah oui,
Culture G, Roméo Juliette.
Beaucoup de Roméo maintenant, devenu un prénom assez hype.
Ah bon,
Nico. Ouais, tout à fait.
Nico.
Roméo Elvis également. Oui, dis-moi.
Culture G,
oui.
Qui est très fort. Roméo Juliette.
Oui, quoi?
Dans quelle ville?
Eh ben c'est à
Aïe. Ah ouais.
Mais non, mais on l'a.
C'est moyen. Ouais, dès qu'on sort.
Vérone.
Oh, Vérone.
Vérona.
Bravo. Dès que ça sort du foot et
allez, pause. Dans un instant. Dans un instant, mon Dieu. Dans un instant, on va parler de l'équipe de France avant de parler de l'Angleterre qui joue tout à l'heure, hein, son deuxième match face au Ghana. Julien Laurence nous rejoindra, vous écoutez RMC en direct de New York où il est 15h28, 21h28 en France avec Maxime Chano, Daniel Riello. Reste avec nous, à tout de suite.
RMC After Live, intégrale Coupe du Monde.
Nicolas Jamain.
Et dans moins d'une demi-heure, le deuxième match du jour, deuxième journée, Angleterre-Ghana. On sera bien sûr en direct, on vivra ce match en intégralité. Julien Laurence nous rejoindra, Maxime Chano est déjà à mes côtés. Daniel Riolo aussi, on vient de débriefer de la victoire du Portugal, 5-0 face à l'Ouzbékistan. Quelques minutes pour parler de l'équipe de France, lendemain de qualification pour les 16e de finale, succès face à l'Irak. Tiens, un mot quand même pour dire que, bon, hier on était au stade avec Maxime Chano, hein. On a passé pendant 2 heures dans les coursives.
J'ai appris
à pas se plaindre, tout va bien. Voilà, on a appris à se connaître, c'est sympa. T'as trouvé un sac poubelle pour te couvrir, c'était merveilleux.
Surtout appris à douche venait.
Belle ambiance malgré tout, ça qui est à noter, hein, c'est que les spectateurs étaient quand même heureux d'être là.
Ouais, mais au moins ça a été la
bonne chose. Au prix qu'ils ont dépensé, je comprends.
Ouais, la bonne
quand
chose.
Quand on voit 5000 euros pour ça,
c'est une belle journée. Hein,
c'est sympa, c'était un peu long. Ouais. On pensait rentrer un peu plus tôt, mais non, on a passé un bon moment. Mais c'est vrai que c'était assez long. Mais j'avais prévenu un peu tout le monde, Daniel. J'avais déjà vécu ce genre de situation un peu plus tôt dans ma carrière. Où est-ce que j'étais resté 3 heures dans les vestiaires. Bon là, ça a été un peu moins long, 2 heures, mais ça restait quand même relativement long.
Alors, une information que Julien Laurence me fait parvenir à l'instant justement de la communication de la Fédération Française de Football. Didier Deschamps est endeuillé.
Oui, malheureusement.
Il ne pourra pas assurer les entraînements avant la rencontre Norvège-France. Il a perdu sa mère, Didier Deschamps. Il va donc rentrer en France pour assister à ses obsèques.
moment très douloureux, évidemment, pour le sélectionneur de l'équipe de France, qui ne pourra pas non plus être présent sur le banc vendredi pour le dernier match du groupe I face à la Norvège. C'est un accord avec Philippe Diallo, bien sûr. Il a confié la responsabilité à son adjoint Guy Stéphane, diriger le groupe d'ici là, d'ici à son retour. Bien sûr, on adresse toutes nos condoléances à Didier Deschamps, ses proches, sa famille, bien sûr, sur RMC. Voilà pour une information officielle pour le sélectionneur de l'équipe de France. Alors, justement...
Et évidemment, et il faut lui adresser nos plus sincères condoléances. C'est un moment très compliqué, qui ne sera pas sans conséquence pour l'équipe de France. Maintenant, il y a des choses bien plus importantes dans la vie. Et donc, oui, il va être obligé de rentrer en France. Oui.
Quelques jours. Voilà, après la victoire de son équipe hier face à l'Irak. Sachez également, autre information beaucoup plus légère, bien sûr, il y a une petite menace sur ce match France-Norvège vendredi. Orage attendu
encore
sur Boston, autour de Boston. Il y a qu'environ 20% de chance que l'orage s'abatte sur le stade et qu'il y ait encore les mêmes désagréments que ceux qu'on a rencontrés hier à Philadelphie au Lincoln Financial Stadium. Voilà pour les infos, bien sûr. Alors, le petit jeu du jour, c'est projection équipe de France. Vous le savez, quasiment tous les médias ont leur tableau, leur simulateur pour la suite de la compétition, 16e, 8e, quart, demi-finale. C'est tout à fait hypothétique, mais il y a quand même déjà des équipes qualifiées pour les 16e, assurées de terminer à la place à laquelle elles sont aujourd'hui. Première place, par exemple, l'Allemagne, le Mexique, voilà, savent précisément où, dans quelle partie de tableau elles sont. Ça, c'est intéressant. Comme au tennis sur les tournois du Grand Chelem, il y a une partie haute, une partie basse qui se dessine. Et pour concernant la France, voilà comment ça pourrait se dessiner si elle termine première. Elle jouerait contre la Suède en 16e, l'Allemagne en 8e, Pays-Bas, Maroc ou Suisse en quart, Espagne en demi. Ce sont les probabilités. Alors, si elle termine deuxième, Côte d'Ivoire en 16e, Japon ou Brésil en 8e, Portugal ou Angleterre en quart et Argentine en demi. Le petit jeu, évidemment, au boulot, autour du comptoir également, c'est de savoir quelle est la meilleure partie de tableau. Est-ce que l'équipe de France a vraiment intérêt à terminer première et donc à faire match nul ou à battre la Norvège vendredi?
Mais moi, la question que je pose dans ce cas, c'est d'abord, un, est-ce que ça intéresse vraiment les gens de faire ce petit jeu? Et est-ce qu'une fois que tu le fais, si ça t'intéresse de faire les projections, tu peux réellement et objectivement dire qu'il y a un côté qui est meilleur que l'autre ou un adversaire qui est meilleur que l'autre?
Ouais.
C'est pour ça que je suis toujours étonné quand on fait ce jeu des petits tableaux. Bon, évidemment, si tu me parles d'un 16e de finale face à, Japon ou Allemagne ou Argentine, ok, mais bon, c'est pas le cas parce que tu termines premier en 16e de finale, t'as pas un gros comme ça. Donc tu vas dans les tableaux, t'essayes d'analyser loin dans les tableaux, tout ça, mais tu sais pas si forcément c'est contre eux. Tu sais, ça me fait penser, et dans le tennis, ça tombe plus juste que dans le foot. Mais tu sais, quand on fait les cartes théoriques, quand il y a le tableau de Roland-Garros ou tu t'essayes de deviner.
Alors, tout, c'est tableau haut, c'est basse.
Ça se passe rarement exactement comme ça. Dans le tennis, un petit peu plus que dans le foot.
Oui, voilà. Roland Garros, en général, tête de série 1 et 2, 3 et 4, tu les trouves en quart ou en demi, quoi.
Les deux scénarios que tu m'as donné, Nico, enfin, d'un côté, t'as la Suède, de l'autre côté, t'as le Japon. Ensuite, tu m'as dit Portugal, Espagne. Enfin, je veux dire, on est quand même kiff-kiff, sur les oppositions. Et puis, tu sais très bien que quand t'es champion du monde, tôt ou tard, va falloir jouer contre les meilleures nations, le Chapeau 1, contre l'Angleterre, contre l'Espagne, contre le Brésil.
Donc. Ouais, mais t'as quand même des données, des tendances sur les sélections que tu peux affronter.
Après, la question, c'est de savoir, est-ce que les joueurs de l'équipe de France et Didier Deschamps compétiteurs comme ils sont, vont se permettre en tout cas de laisser passer le match contre la Norvège. Il y a un match dans le match finalement entre Mbappé et Haaland, et on parlait beaucoup des records, des stats. Est-ce que Mbappé va laisser passer le match parce qu'il a envie de terminer deuxième, parce qu'au lieu de jouer le Japon, il a envie de jouer la Suède?
Et qui va faire un truc pareil?
Voilà, autant, personne. Autant, pour ça que autant, je dis ça.
Alors moi, dans cette espèce d'épicerie globale qu'on essaye de nous vendre, je veux bien concevoir, en fait j'essaye de me mettre à la place. Je me dis, si l'équipe contre laquelle je vais jouer, on a un intérêt tous les deux à faire match nul, parce qu'on se qualifie tous les deux, et sinon il y a un risque si un de nous deux perd. Le fameux, ce qu'on appelle en Italie le biscotto, je le fais. Parce que, dure loi du sport, je le fais, les autres
étaient
se qualifient avant et tout. Si c'est ça où je risque de tomber, je veux bien l'entendre. Mais de là à moi, je vais faire exprès de perdre, parce que ça peut m'avantager si l'autre fait premier tour. Tu peux pas faire un truc pareil.
Éthique,
de quelle façon tu fais
mais
ça?
La question qui se pose, c'est est-ce que tu mets ton 11 type
ton titulaire, c'est
contre
ça.
La Norvège?
C'est pas le joueur,
c'est pas les joueurs. Je mets une équipe B parce que je pense qu'elle va perdre. C'est encore pire.
Non, mais je me dis que elle peut gagner.
je donne du temps de jeu à ces gars-là.
Et donc finalement,
et en plus,
finalement, t'envoies la faute sur Didier Deschamps. Est-ce que Deschamps va prendre le risque de faire ça? Non, mais je suis d'accord avec toi. Tu peux pas mettre ton 11 titulaire en espérant que les joueurs lèvent le pied. Ça a pas de sens. Maintenant, est-ce que Deschamps, compétiteur, je le répète comme il est, va prendre le risque d'aller envoyer Lacroix et Konaté titulaire à la place de Saliba et Upamecano parce qu'il a envie que
tu perdrais avec eux de toute façon.
Ah, voilà, c'est ça. T'as le risque.
Mais, voilà.
Au moins, t'as mis en place.
En face de ça, notons quand même que, alors probablement que c'était dit sur le ton de l'humour, mais bon, quand on le dit malgré tout, est-ce qu'il n'y a pas un fond de quelque chose ? Haaland, hier en interview, vous avez tous entendu qu'en grand sourire, il a lâché, de toute façon, on va perdre vendredi contre les Bleus. Mmh. En gros, on accepte d'être deuxième, et puis de toute façon, eux, ils vont gagner.
Enfin, voir, enfin,
voilà. C'était quand même étonnant, cette phrase-là. Donc,
c'est une ironie, tu vois.
Oui, voilà, j'ai bien compris que c'est de l'humour. Puis, mais est-ce qu'eux, ils partent dans l'idée également de mettre une équipe B en se disant, de toute façon, nous, ça nous va très bien, on est qualifié, on fait deuxième. Notre Coupe du Monde, on sort, on verra bien le 16e contre qui on tombe. Si on va en 8e pour la Norvège, c'est bon, c'est chouette, contrat rempli, tout ça. Mais c'est bizarre que lui, il ait dit ça. C'est un petit peu comme si tout le monde était en train d'accepter dans cette Coupe du Monde de dire, de regarder contre qui on va. Je trouve ça un petit peu bizarre.
Non, mais on en préchauffe, t'as compris. Hein. Ça, c'est des matchs de préparation quasiment, et même dans l'esprit, les gars.
Ils
sont à la salle d'entraînement encore pour l'instant.
Mais c'est surtout un scénario dans le cas où toutes les grosses nations gagnent. T'es pas à l'abri que le prochain match, l'Espagne tombe contre la Colombie, au lieu d'être première, finir deuxième.
Bien sûr, c'est pour ça que c'est hypothétique.
C'est très aléatoire.
T'as raison. Bon, je vous rappelle l'information que nous venons d'apprendre par les services communication de la Fédération française de football. Le sélectionneur des Bleus, Didier Deschamps, doit rentrer en France. Il a appris le décès de sa mère il y a quelques heures. Il va se rendre aux obsèques de sa mère. C'est Guy Stéphane qui va assurer les séances d'entraînement et également qui sera sur le banc vendredi pour le duel face à la Norvège, troisième journée des Bleus dans ce mondial. On revient dans un instant, bien sûr, ici pour lancer le match qui démarre dans moins de 20 minutes désormais. Angleterre-Ghana, les Anglais, les compos, les infos. Julien Laurence arrive également avec Daniel Riello et Maxime Chano. Merci d'écouter RMC en direct de New York. À tout de suite.
RMC. Bellingham qui arrive dans la surface de réparation. Bellingham, la frappe croisée, le poteau rentrant de Jude Bellingham.
After Live, intégrale Coupe du Monde.
Nicolas Jamin.
Avec Daniel Riolo, avec Sim Chano. Et nous accueillons ici notre studio à New York, New Jersey, selon précis, 14e étage, vu sur la skyline et vu sur Julien Laurence surtout. Salut Julien.
Salut Nico, salut à tous.
Ça va, en forme?
Super.
C'est bien?
Super, très bien.
On va parler de la compo avec toi. Bellingham titulaire, c'est une des informations importantes également de ce 11 de Thomas Tuchel. D'abord, tiens, je vous rappelle également qu'il y a un match 5, finale, championnat de France de basket, ça se passe à l'Adidas Arena. Diane Carlotti, Paris Basket AS Monaco, où en est-on?
Oui, Nico, et pour l'instant, c'est Monaco qui est devant 39-32. On est dans le deuxième quart-temps. Il reste 6 minutes 45 à jouer. Là, il y a un temps mort qui vient d'être demandé pendant le premier quart-temps. Écoute, eh bien, il y a Alexis Lebrun qui est venu sur le parquet. Il a été acclamé par la foule. Donc, il y a du beau monde ici qui est venu. Puis, je peux te dire qu'il y a une vraie ambiance dans la salle. Les supporters sont à fond. Ils poussent derrière leur équipe. Rien n'est fait. Il reste 6 minutes 45 dans ce deuxième quart-temps.
Merci Diane. Je vous rappelle également, et vous connaissez le principe, hein, vous pouvez gagner votre prime de match, prime de cette Coupe du Monde. Je rappelle qu'il y a 5 jours, 65 500 euros ont été remportés par un de nos auditeurs, Anthony. La cagnotte est relancée désormais, elle est à précisément 39 000 euros. Dès qu'il y a un but, plus 500 euros dans la cagnotte. Et pour y participer, eh bien, c'est extrêmement simple, il faudra envoyer but au 732-16, but au 732-16, mon top inscription. Direction donc ce duel Angleterre-Ghana. Edgar Grolot est au match, est au stade. Salut Edgar.
Salut Nico, salut tout le monde.
Heureux de te retrouver à Foxborough, banlieue de Boston, Gillette Stadium.
Ah oui.
L'Angleterre et le Ghana, co-leader de ce
match. Alors il pleut ici. Hein.
Une victoire. Il pleut aussi, j'ai l'impression. Ça y est, c'est parti. On est dans un épisode nuageux.
Ah ouais, non mais là on est en tribune presse, on est sous les bâches, on est couvert.
Alors les Anglais, ils sont en t-shirt, hein. La pluie visiblement.
Non, non, mais a priori, par contre, à la différence du match des Bleus hier, il n'y a pas d'orage qui est prévu, pas de coup de tonnerre, pas d'éclair. Donc a priori, c'est juste de la pluie qui devrait continuer à travers le match, mais c'est des conditions assez anglaises pour l'instant. Voilà, je pense que c'est plus compliqué pour nous les journalistes sous nos bâches en plastique que pour les joueurs qui vont pouvoir jouer a priori dans des bonnes conditions, à peu près dans des bonnes conditions.
Je disais, seul petit point négatif des stades aux États-Unis, c'est qu'ils ne sont pas couverts. Et c'est vrai que quand il pleut, comme c'est le cas aujourd'hui ou hier, c'est pas archi fun pour les supporters.
Bon, les compos, Edgar, c'est ça qui est important. Compos anglais, s'il te plaît.
La compo anglaise avec Pickford dans les cages, la défense, Spence, Gueye, Konsa, James, ça veut dire que Spence et Gueye entrent dans le 11 de départ aux dépens d'O'Reilly et de John Stones qui étaient titulaires lors de la première journée. Au milieu de terrain, Declan Rice, Elliot Anderson, Jude Bellingham. À gauche de l'attaque, Noni Madueke. À droite, Anthony Gordon. Et devant, Harry Kane. Deux changements donc, c'était en défense par rapport à la première journée. Et puis côté ghanéen, Assaré dans les cages, la défense, Mensah, Opoku, Arjeti, Senaya. Au milieu de terrain, Sibo, Partey et Yerenki. Partey qui a été virulemment en tout cas sifflé par tous les supporters anglais. On rappelle qu'il sera jugé pour viol en Angleterre l'an prochain. Et puis Semenyo devant en attaque, Williams à droite et puis Ayou à la pointe de cette attaque ghanéenne.
Voilà pour la compo. Julien, commençons d'abord par la présence de Bellingham, titulaire sur le premier match, titulaire encore une fois. On le rappelle, tourelle préférée dans l'absolu, Morgan Rodgers. Les derniers mois l'ont prouvé, sa connexion avec Harry Kane notamment, son travail tactique, son intelligence. C'est la preuve que Bellingham, ça y est, a convaincu, semble avoir convaincu Thomas Tuchel, Julien.
C'est exactement ça. Il jouait gros pour le premier match, on l'avait dit dans l'avant-match déjà. Et il a convaincu Tuchel. Il a été très bon dans l'attitude, dans ce qu'il a produit aussi sur le terrain, avec ballon, sans ballon. Donc il mérite cette deuxième titularisation là, comme ça d'affilée, dans un match où aussi je pense son impact physique sera important au milieu de terrain, même si cette équipe ghanéenne, je l'ai vu contre le Panama et c'est quand même très limité pour moi. Il y a même pas photo par rapport à ce que l'Angleterre va pouvoir faire, mais quand même il y a cette continuité là aussi qui est importante chez Tuchel, de la complémentarité entre Bellingham et Kane, très intéressante. Au milieu de terrain, pareil avec Rice et Anderson. Madueke, parce que Saka est toujours pas à 100%. Gordon à gauche, même si il avait été complètement transparent, j'avais trouvé, lors du premier match contre la Croatie, alors que Rashford, lui, avait fait une bonne entrée en jeu. Mais clairement, Tuchel, je pense, maintenant, voit aussi Rashford comme un élément très important en sortie de banc. Et peut-être, ce sera peut-être son rôle dans cette compétition-là aussi, lui, le super sub un petit peu, comme on l'a vu lors du premier match. Et puis derrière, Spence plus qu'O'Reilly, parce qu'il va falloir mieux défendre, être un meilleur défenseur peut-être face à un Williams ou un Semenyo. Et puis Stone, c'est dur de jouer deux matchs en cinq jours. Donc c'est pour ça qu'à mon avis, on l'a reposé ce soir.
Il y avait beaucoup de supporters anglais qui demandaient justement à ce que Gueye soit titulaire dans cette équipe à la place de Stones, hein, Julien.
Oui. Alors moi, je pense que le rêve absolu de Tuchel, c'est Gueye Stones, la charnière. Ah ouais. Et d'ailleurs, c'est sûrement celle qui est la plus complémentaire.
Contre Stones, ça. Dommage, parce que tu as dit 5 jours, c'est 6.
C'est
trop. Ouais.
Cette saison, il a joué, je crois, 3 matchs depuis janvier. Donc, d'enchaîner comme ça, c'est compliqué.
Bon, Daniel, avant de te libérer, Bellingham qui retrouve grâce de Tuchel, qui s'installe peut-être dans ce 11. C'est forcément une bonne nouvelle, c'est essentiel.
Tout le monde me dit que l'enfant terrible s'est assagi, que le deal fonctionne et qu'en tout cas il a été signé.
Il était dompté.
J'attends de voir jusqu'à quand ça peut tenir. Bellingham qui signe un deal pour être bon à Sagi et ne plus penser qu'à sa tronche, moi je signe tous les jours. C'est quand même un joueur extraordinaire. Donc moi, Bellingham juste derrière Harry Kane, c'est un des duos. Si ça tourne, il y a quoi de mieux, Olise Mbappé. Enfin voilà, on est là. On est dans le haut du panier, on est vraiment dans le gratin, mais le haut des pommes de terre.
Mais c'est vrai que contre la Croatie, dans le rôle le défensif, Bellingham, c'était intéressant. Ouais, c'est ce que lui a reproché d'ailleurs Tuchel pendant longtemps.
Bien sûr. Là, on est au top.
Il y a un diapason de l'équipe, un peu plus.
Et si Saka revient, parce que je le préférerais quoi qu'il en soit toujours à Madueke, que j'aime pas beaucoup comme type de joueur. Là, honnêtement, on est sur une équipe.
Quoi, tu vois, très haut standing. C'est une équipe de France, offensivement.
Très haut standing, là.
Mais pour Tuchel aussi, l'important, c'est que c'est les quatre de devant, donc que ce soit Gordon ou Rashford à gauche, mais surtout Saka à droite, et ensuite Bellingham et Kane, avec aussi le banc, Rodgers, Rashford, Madueke, tout ça, soit prêt physiquement à 100% pas maintenant en fait.
Bon, la vraie compétition va commencer, les 16e de finale.
Parce que Tourelle fait que de leur répéter.
Daniel, je te remercie. Tu vas pouvoir t'installer tranquillement sur le canapé, regarder ce match, l'analyser précisément et revenir ensuite pour le débriefer. Mais on parie d'abord ce duel entre l'Angleterre et le Ghana.
Winamax, le plus important, c'est de gagner.
C'est le moment de parier sur RMC avec Winamax.
Et avec Christophe Penet. Salut Christophe.
Bonsoir Nico, bonsoir à tous.
Quels sont les codes de ce match?
Les Three Lions, archi favoris, 1-17 la victoire de l'Angleterre, 7-50 le match nul, 13-50 la victoire des Black Stars du Ghana. Je vois l'Angleterre s'imposer, et assez largement. L'Angleterre plus Kane, 1-70, c'est cadeau. J'ai presque envie de mettre ma maison dessus. Le doublé d'Harry Kane est à 3-60. Le pénalty de l'Angleterre est à 3-10. Et cet après-midi, dans le Super Moscato Show, Pierre Dorian a lancé une très belle code que j'ai envie de valider. Chez l'Angleterre qui gagne les demi-temps, l'Angleterre s'impose par 3 buts d'écart avec le but d'Harry Kane. C'est coté à 3,25 les copains.
Ok, merci Christophe.
Winamax, le plus important, c'est de gagner.
C'est le moment de parier sur RMC avec Winamax. Les jeux d'argent et de hasard peuvent être dangereux. Perte d'argent, conflits familiaux, addiction. Retrouvez nos conseils sur joueurs-info-service.fr et au 09 74 75 13 13. Appel non surtaxé.
Angleterre-Ghana dans 10 minutes. Vous voulez pas manquer le God Save the King? Alors restez avec nous, on revient dans un instant sur RMC. After Live, intégrale Coupe du Monde. A tout de suite.
RMC, After Live, intégrale Coupe du Monde.
Nicolas Jamain.
Avec Maxime Chanot, il est là le Max, le Jules aussi est là. Le J c'est le S, c'est Julien Laurence.
Allez.
On t'a déjà dit ça ou pas?
Non.
Le J c'est le S, c'est pas notre génération ça, Jules.
Non, et puis on est.
Essaye de me rajeunir, mais. On est pas trop. Non,
c'est
pas
que le parisien chez nous.
Voilà, merci, voilà. On est d'accord. Hein, même si on aime bien Yam aussi quand même. Hein. Évidemment. Il y a Tonk et Hobbs qu'on salue.
Bien sûr.
Qui nous écoute. Il y a un gros match. Il y a un match intéressant. Quand l'Angleterre joue, c'est toujours intéressant et important. Face au Ghana. Les deux équipes ont remporté leur premier match. L'Angleterre 4-2 face à la Croatie. Le Ghana au bout du temps additionnel face au Panama 1-0. Ça se passe à Foxborough, dans la banlieue de Boston, pas très loin de l'équipe de France. Et c'est Edgar Grelot qui est sur place. Avant ça, je rappelle l'information de la journée. Le départ de Didier Deschamps de la sélection. Il va retrouver la France pour assister aux obsèques de sa mère dont il a appris le deuil il y a quelques heures. C'est Guy Stéphane qui va assurer les entraînements des Bleus et qui sera également sur le banc de l'équipe de France vendredi pour le dernier match de la phase de poule face à la Norvège. C'est parti pour les hymnes. On commence cette gare avec l'hymne anglais, je crois.
Oui, c'est parti pour God Save the King ici à Foxborough. Magnifique, God Save the King, ici à Foxborough. On va écouter maintenant l'hymne national ghanéen, God Bless Our Homeland, Ghana.
Angleterre, coup d'envoi dans moins de 5 minutes sur RMC. Restez avec nous. Qui va prendre la tête du groupe? C'est dans un instant dans l'After Live, intégrale Coupe du Monde. A tout de suite en direct de New York.
À l'écoute des pros avec Toyota Professional. Pour tous les artisans, le véhicule utilitaire est un outil de travail. Antoine Delacroix, vous êtes chef du département vente et marketing société chez Toyota. Que leur proposez-vous ?
Nous proposons la gamme de véhicules utilitaires Toyota ProAce de 3 à 17 mètres cubes, tous disponibles en électrique et en diesel, mais aussi le pick-up Hilux. Mmh. Ils pourront bénéficier du meilleur accompagnement grâce à l'ensemble de nos services après-vente, disponibles partout en France dans nos centres Toyota Professional.
Merci Antoine.
Plus d'infos sur toyota.fr. Professional égale professionnel.
RMC After Live, intégrale Coupe du Monde.
Nicolas Jamin.
Angleterre-Ghana dans un instant, le coup d'envoi au Foxborough Stadium, banlieue de Boston. Edgar Groulot est sur place. Je vous rappelle la victoire 5-0 du Portugal face à l'Ouzbékistan. L'événement, c'est le doublé de Cristiano Ronaldo qui a enfin marqué avec sa sélection après 10 matchs. Sans but, Maxime Chanot à mes côtés, Julien Laurence également, Edgar Groulot au stade près de Boston. Mais d'abord le basket également, match 5 de la finale du championnat de France. Paris Basket, AS Monaco, avec toi Diane.
Nico, il reste 40 secondes. La fin de ce deuxième quart-temps, Monaco est toujours devant, 53-50. Il y a eu jusqu'à plus 9 pour les Monégasques. Le meilleur marqueur pour l'instant du match, c'est le numéro 4, Monégasque Jaron Blossom Game, avec 15 points au compteur. Côté parisien, Nadir Hidfi, le prince de Paris, totalise 5 points. Et donc là, il reste 40 secondes avant la mi-temps.
À tout de suite, Diane Carlotti qui suit ce match, évidemment avec le retour de Mike James, match 5 des finales du championnat de France. Dans un instant, le coup d'envoi, 2 minutes 30, restez avec nous sur RMC, bien sûr. Vous avez sur After TV le Score Center, toutes les stats en simultané, en direct. Mettez bien le son de la radio et puis vous pouvez commenter dans le chat de la chaîne YouTube de l'After. N'hésitez pas à le faire, on sait que c'est un succès déjà pour nous aussi, cette Coupe du Monde. Vous êtes très très nombreux à nous écouter. Rappel des compos, Angleterre-Ghana, Edgar Groulot en direct du stade près de Boston.
A commencer par la compo anglaise, Pickford dans les cages, la défense de la gauche vers la droite, Spence, Gueye, Konsa, James au milieu de terrain, Rice, Anderson et Bellingham, et puis les trois devant, Madueke à gauche, Gordon à droite et Harry Kane devant dans cette équipe anglaise. Et puis côté ghanéen, Asare dans les cages, la défense, Mensah, Opoku, Adjeti et Senaya, le milieu de terrain, Sibo, Partey, Yirinki le buteur face au Panama, et puis devant, Semenyo, Ayou et Williams.
Voilà pour les.
Et plutôt l'inverse d'ailleurs, hein, Gordon ouais, plutôt ouais, à gauche, hein, d'ailleurs.
Ouais. C'est ça.
Ah, oui. Je sais pas pourquoi je les ai inversés sur ma feuille. Je pense que j'ai été perturbé par la pluie qui tombe ici à Foxborough.
Et donc un joueur de Ligue 1 sur le terrain, Marvin Senaya, qui était venu d'ailleurs il y a deux ans dans Génération After lorsqu'il jouait encore au Racing Club de Strasbourg. Marvin Senaya, latéral droit. Bon les gars, c'était une formalité, Max, pour l'Angleterre ce match-là.
Écoute, moi je vois les Anglais favoris avec ce qu'ils nous ont montré contre la Croatie. Alors même si évidemment défensivement parlant, il va falloir qu'ils soient un peu plus solides que contre ce match contre la Croatie, justement avec un Harry Kane que je vois bien buteur. Voilà, il va sûrement rejoindre ses copains Mbappé, Haaland, Cristiano Ronaldo, tous auteurs de doublés. Pour moi, alors, je ne vais pas dire que ça va être facile pour les Anglais, mais je les vois quand même s'imposer.
Julien.
Ouais, comme je l'ai dit tout à l'heure, j'étais à Ghana Panama, c'était vraiment un des pires matchs de ce mondial.
Là, je me rappelle, c'est à Toronto, c'est ça ?
À Toronto, ouais, exactement. Ouais. Où le Ghana a vraiment, même avec la victoire en fin de match et le but de leur jeune milieu de terrain, Yirinki, qui on l'avait dit ce soir-là d'ailleurs, a un bel avenir devant lui. Il a que 20 ans, il a fait une très bonne saison. Et c'est un nom qu'il faut retenir aussi parce qu'il y a déjà des gros clubs qui s'intéressent à lui. Mais
Nordjylland,
exactement. Mais sinon, ça avait été très faible. J'ai trouvé individuellement, collectivement, même les joueurs censés faire une différence comme Semenyo avaient été transparents dans ce match-là. Donc, on verra là aujourd'hui. Mais pour moi, il y a vraiment pas de quoi s'inquiéter pour l'Angleterre. Et je veux encore une confirmation de ce qu'on a vu contre la Croatie dans les intentions de jeu.
C'est des bonnes choses.
Des permutations, le mouvement, les rotations, etc. Voilà, on va voir ce que ça va donner.
Après un match dans le match, hein, tu l'as dit, mais Semenyo, ça va être important pour lui. Hein. Lui, le joueur de Manchester City, c'est toujours important pour un joueur qui évolue dans le championnat local de jouer contre l'équipe nationale, en l'occurrence lui, et contre l'Angleterre. Donc on va voir ce que ça va donner. En espérant qu'il soit meilleur que par rapport au dernier match, je suis d'accord avec toi. Où est-ce qu'il est
et le décompte est donné ici à Foxborough. C'est parti pour ce match Angleterre-Ghana. Le coup d'envoi donné par les Three Lions et Pickford qui va dégager loin devant directement sur une tête ghanéenne. À noter qu'on est dans l'antre des New England Patriots. Évidemment, Nico, toi, tu suis le sport US. C'est là où Tom Brady, l'un des meilleurs joueurs de l'histoire de la NFL, a fait une très très grande partie de sa carrière.
New England Patriots qui partagent aussi ce stade avec les New England Revolution, la franchise américaine de soccer.
Ah bon ?
Et voilà. Ouais.
D'accord. Voilà. T'as déjà joué dans ce stade ou pas ?
Ouais, mais sur synthétique. Alors c'est vrai que. Comment il a.
Alors est-ce qu'il est rempli quand il joue ?
Écoute, il n'est pas rempli, mais ils affichent facilement 35 000 spectateurs, mais dans un stade qui en contient
quand même
80, c'est vrai que ça peut paraître un peu clair. Mais comment est la pelouse, justement, avec toute cette pluie? Parce que c'est vrai qu'hier, contre l'Irak, l'équipe de France, on a vu quelques parties qui étaient quand même assez trempées. Mais là, ça a l'air d'être pas
non,
mal.
Ça a l'air d'aller. Honnêtement, ça a l'air d'aller pour l'instant. Alors oui, il a plu quasiment en continu, mais on a eu peu de moments où c'était vraiment des trombes d'eau. Donc pour l'instant, ça a l'air vraiment d'aller. La pelouse qui tient, le ballon qui roule normalement sur ses premières passes derrière entre notamment Gueye et Kansa. Ça a l'air sincèrement d'aller beaucoup mieux. Par exemple, si on compare au match de l'équipe de France face à l'Irak hier, c'est pas du tout le genre de conditions chaotiques qu'on a pu voir. Oui, il y a de la pluie. Alors ça va peut-être avantager les Anglais qui ont l'habitude de jouer dans ce genre de conditions. James derrière avec Kansa, les Anglais qui ont le ballon et déjà après seulement 1 minute 30 de jeu, tous les joueurs de chance sont dans la moitié de terrain du Ghana. Évidemment, moi, on imagine que les Anglais vont avoir le ballon la majorité de ce match.
Moi, pour moi, c'est le virus du football actuellement, les blocs bas. On l'a vu hein, plusieurs fois d'ailleurs, à chaque fois que les petites nations entre guillemets respectent un peu trop les grosses, ben ça fonctionne pas. Et au contraire, on a vu certaines nations aller agresser entre guillemets les grosses nations et tu vois qu'il y a des résultats. Donc commencer ton match avec un bloc aussi bas, pour moi c'est incompréhensible.
Et c'est pour ça mais par rapport à la titularisation de O'Reilly ou de Spence, dans un match comme ça, une configuration pareille, je trouve que O'Reilly aurait été très intéressant aussi, Max, dans. Et Aurélien d'ailleurs aussi entre les lignes pour justement faire bouger un peu ce bloc là, alors que pour l'instant, même si on voit Rai jouer très haut, ça va être un petit peu on passe le ballon de la droite vers la gauche, il va falloir quelque chose d'un petit peu différent pour surprendre une équipe qui va être très bien organisée en 4-5-1 visiblement.
C'est ça, assez clairement. Bon, je te précise que c'est ton compère Drôle d'âme espagnol hein, qui commande ce match hein, mon cher Julien. Aurélien, c'est Edgar.
Excuse-moi mon Edgar.
Tu es là
c'est pas une insulte. Il est plutôt beau gosse Aurélien. Il est plutôt beau gosse.
Moins que toi, ça va. Moins que toi.
Voilà.
Merci quand même, un peu de solidarité.
J'ai comme l'impression qu'à RMC, personne ne connaît les prénoms des copains.
Ouais, c'est une rédaction d'individu. Ouais, lui, on crée un collectif, mais j'y arrive pas, voilà, non, visiblement.
Maxime, j'ai cru que t'allais dire à RMC, ils recrutent les commentateurs sur le physique. J'ai cru que c'est ça que t'allais dire.
Bah, en tout cas, j'ai compris que pour moi, c'était le cas, mais pour quand Nico Jamin
c'est sûr.
Comme Nico Jamin m'appelle Mathieu hier, bon, je comprends.
Mathieu Chano. Ça te va bien quand même, Mathieu.
Mathieu plutôt. Mathieu
Chano. Julien, pardon.
Mathieu Chano. Tiens, petite info qui est confirmée, officialisée, ça te concerne Julien.
Attention, Bellingham qui arrive près de la surface de réparation, il essaye de décaler côté gauche et il voulait te laisser le temps de donner ta stat parce que la passe est complètement ratée vers Declan Rice, ça file en touche pour les Ghanéens.
Tu vois débarquer chez toi en première ligue Gary O'Neill, hein, ça y est, 6 mois à Strasbourg.
Le retour.
Allez, on y va, on rentre en Angleterre, à la maison pour lui, chez le promu Ipswich Town.
Ouais. Voilà. C'est bien à Strasbourg. Ça trouve des portes.
C'est un an et demi, 6 mois, c'est super. T'engages pas en plus, c'est bien dans la vie, t'engages pas.
Ouais, tu jamais bloqué.
Bien puis on te dit rien.
Avec ce genre de
études-là.
Qui a fait du bon travail à Strasbourg, qui va succéder à Kieran McKenna. À Ipswich, qui a fait du très bon travail lui aussi, parce qu'ils avaient amené de la Ligue 1, la 3ème division, jusqu'à la 1ère Ligue. Ensuite, il est redescendu, il les a fait remonter tout de suite, qui est un très bon jeune entraîneur aussi. Mais le problème, je suis désolé, enfin, après, Garonnier fait ce qu'il veut, mais t'as quand même plus de chances avec Ipswich d'avoir une saison un peu galère en 1ère Ligue. Alors oui, ça, c'est la 1ère Ligue, mais regarde ce qui est arrivé à Rob Edwards, par exemple, qui avait quitté Middlesbrough, il avait un joli projet pour monter de Championship en 1ère Ligue. Il est allé à Wolverhampton parce que c'était son club, en se disant c'est quand même la 1ère Ligue, je peux pas refuser, c'est impossible. Et la saison galère, et ils viennent de le dégager, et il a plus de travail.
Est-ce que tu peux laisser passer le train? Il y a le meilleur exemple avec Anthony Iraola.
Bah ouais.
Voilà, qui se retrouve aujourd'hui à Liverpool. Enfin,
Bon, on verra qui sera le successeur de Gary O'Neill. Hein. Habib Bey, pourquoi pas? Je ne sais pas si les Galaxy Blueco, en tout cas, lui, l'ancien Strasbourgeois également, qui est encore officiellement l'entraîneur de l'Olympique.
Pour l'instant, toujours. Ouais.
Allez, le jeu, la Coupe du Monde, l'Angleterre face au Ghana, la 5e minute de jeu. Edgar Grolot est au stade.
Et toujours 0-0. Le ballon de Madueka en profondeur vers Bellingham. Il n'y a pas de faute. Comme depuis le début de cette compétition, les arbitres qui laissent énormément jouer. Mais là, il est obligé de siffler cette faute de Cibo sur Madueka. Et ça va faire un très très bon coup franc là, messieurs. Dès la 6e minute de jeu pour les Anglais. On est à 7-8 mètres de la surface de réparation ghanéenne. Légèrement excentré sur le côté droit. C'est parfait pour mettre ce ballon dans la boîte. Et déjà Declan Rice qui s'est rapproché évidemment du ballon. ballon pour essayer de le mettre dans cette surface de réparation. On rappelle notamment qu'Harry Kane avait marqué sur un coup de pied arrêté lors du premier match avec une tête sur corner parfaitement tirée par Declan Rice, celui qui les tire déjà toute la saison avec Arsenal et qui est devenu un véritable spécialiste. Declan Rice pour tirer ce coup franc, deux joueurs ghanéens, Semenyo et Jordan Ayew, dans le mur des Black Stars. Declan Rice qui lève un bras pour donner une indication à ses coéquipiers, c'est tiré premier poteau, c'est mal tiré et c'est repoussé, mais ça va revenir très rapidement dans les pieds de Rice. Madueke sur le côté droit, c'est intercepté par Jordan Ayew. Ayew qui essaye de partir en contre-attaque, il a cherché Antoine Semenyo et c'est intercepté par un Anglais, et Reece James qui va avoir tout le temps du monde pour se retourner et relancer les Anglais. Mais cette fois-ci, la cartouche coup de pied arrêté a été très mal exploitée par les Anglais.
Ouais, côté ghanéen, voilà, c'est ce genre de situation qu'il faut absolument optimiser, hein, ces contre-attaques. On l'a vu là avec Jordan Ayew qui malheureusement loupe sa passe, mais on a bien compris que ça va être un petit peu la tactique de cette équipe, voilà, d'attendre un petit peu les Anglais pour essayer de les contre-attaquer avec un jeu très très vertical, et d'ailleurs ils ont les armes pour ça devant.
Et ils ont essayé d'ailleurs, les Ghanéens, sur une action précédente, d'allonger au-dessus de la défense anglaise un long ballon vers Iñaki Williams qui était largement en position de hors-jeu, mais on sent en tout cas que c'est quelque chose qu'ils ont envie d'aller chercher, la profondeur, pourquoi pas au-dessus des défenseurs centraux anglais. Comme ça, qui a le ballon, et les Anglais qui vont faire tourner autour de cette surface de réparation.
Et pour revenir justement à cette défense centrale à Konsa et Gueye, c'est pas facile, hein, parce que t'es dans une situation de match où t'as énormément de ballons, en règle générale, un gros pourcentage de possession, mais faut malgré tout rester très très concentré, parce qu'à la perte de balles, voilà, ça va très vite. Donc c'est peut-être deux, trois situations que cette doublette anglaise va devoir gérer, mais elle va devoir bien le gérer. Et ça, voilà, ça montre aussi, t'as besoin d'expérience, t'as besoin justement de joueurs qui sont concernés, qui sont concentrés, et malheureusement, parfois t'es jugé uniquement sur deux ou trois actions. Donc c'est vraiment pas facile quand t'es dans cette situation-là en tant que défenseur central.
Il est au sol là, hein, Jude Bellingham, Edgar.
Oui, il y a eu un petit choc avec Opoku, le défenseur central ghanéen. Alors le ballon n'était pas à cet endroit-là, donc j'ai pas vu exactement le choc, mais visiblement j'ai l'impression qu'il se plaint simplement d'un coup et qu'une faute a été sifflée à l'encontre du numéro 10 de cette équipe anglaise. Il y a quand même, et vous en parliez dans l'avant-match, deux énormes stars qui sont associés, Jude Bellingham, Harry Kane. Il y a peu d'équipes qui ont ce genre d'effectif dans cette Coupe du Monde. Le ballon qui est cette fois-ci dans la moitié de terrain anglaise, et les Ghanéens qui vont pouvoir déborder sur le côté droit avec Iñaki Williams qui décale, Senaya qui essaye de centrer, et finalement ça va filer directement en sortie de but pour Jordan Pickford. Il va falloir mieux utiliser ces ballons côté ghanéen, mais Marvin Senaya qui s'était bien battu sur le côté droit pour aller pourquoi pas apporter le danger, même si derrière ça a été pas très très bien géré de la part des Ghanéens. Konsa qui a le ballon derrière avec Gueye, on ressort, et en tout cas il n'y a toujours aucun pressing, hein, côté Ghanéen. Ouais, on voit Jordan Ayew qui trottine, ouais. C'est complètement assumé et tactique de la part des Ghanéens.
Bah, la réalité de ce match également, c'est que 4 points t'es qualifié, d'accord. Le Ghana en a 3 déjà, il coffre un point ce soir.
Bah pour eux,
voilà, pour eux, c'est parfait. Machine, et dans le pire des cas, si ça ouvre le score côté anglais, bah, ils sortiront un peu. Mais l'idée est extrêmement basique, c'est le Carlos Queiroz, 73 ans, le coach du Ghana, c'est verrouillé. Voilà. Verrouillé un point.
Il y a quand même beaucoup de mauvais côtés à ce format de Coupe du Monde à 48.
Bien sûr, hein. Oui, dont celui-ci.
Voilà, dont celui-ci, où les équipes avec 3 points, voilà, ça savent très très bien qu'en prenant un quatrième point, donc un match nul, c'est suffisant. Et donc en fait, tu crées des scénarios de match où les équipes vont attendre en espérant pouvoir soit contre-attaquer, soit obtenir le point du match nul. Et c'est au dépend de quoi ? Bah, c'est au dépend du spectacle.
Tout à fait. D'ailleurs, j'ai dit tout à l'heure qu'il y avait Marvin Senaya sur le côté droit, mais le côté gauche aussi, c'est un Auxerrois qui est là. C'est Gideon Mensah.
Ouais, exactement.
Les deux ailes sont auxerroises défensives.
Exactement.
On espère pour les supporters, un peu plus de succès.
Ça, c'est improbable. Hein, mais
oui.
Ça arrive.
Ouais, c'est assez improbable, mais bon. Au moins, les supporters auxerrois qui nous écoutent savent qu'ils supportaient. Attention, Harry Kane dans la surface de réparation qui combine avec Jude Bellingham. Jude Bellingham qui s'est fait arracher ce ballon. Mais là, enfin, une combinaison entre les deux hommes dans ce match derrière les Ghanéens qui essayent de ressortir proprement avec Gideon Mensah. Justement, on en parlait. Mais le ballon qui était un tout petit peu long, et l'auxerrois qui n'a pas pu arriver jusque-là. Les Anglais qui récupèrent ce ballon au milieu de terrain.
Tu voulais parler de Semenyo.
Ouais, parce que c'est un match particulier pour lui qui est né à Londres, qui a vécu toute sa vie en Angleterre. Alors nous, on connaît ces exemples-là de joueurs avec des binationaux, avoir deux cultures, deux nationalités, tout ça, on en parle assez souvent. Mes enfants, par exemple, seront peut-être un jour dans ce cas-là aussi. Et quand tu affrontes la sélection pour laquelle, enfin, pour ton autre
pays. Les enfants, c'est possible ça?
Ouais, bien sûr, ouais. Ils ont le passeport français, le passeport britannique, ils peuvent jouer pour le Pays de Galles avec ma femme, l'Irlande avec ma belle-mère.
Ok, ouais. Mais ma question, c'est est-ce que c'est possible qu'un jour, à Laurence, ait à faire un choix d'équipe nationale?
Non, c'est ça que je veux savoir.
Oui, non, techniquement, ils pourraient.
Ah oui.
Techniquement, mais ils savent très bien tous que.
S'ils ont besoin d'apprendre comment tacler, je suis là.
Allez, moi, je te dirai ça. Mais c'est vrai que ça doit être particulier quand même pour ces Meignot, tu vois, qui a choisi le Ghana, qui aujourd'hui pourrait sûrement arriver à un tel niveau qu'il pourrait jouer pour l'Angleterre aussi, sans aucun problème. Donc c'est vrai que c'est, les deux hymnes ont dû être particuliers.
À l'inverse, c'est aussi les Anglais, ancienne colonie britannique, hein, le Ghana.
Oui, c'est pour
je
ça,
précise.
Ça,
c'est le premier pays d'Afrique à avoir fêté son indépendance de l'Angleterre, justement, en 1957.
L'Empire britannique. En 1957. Kobbi Mainoo et Jared Kwanzaa sont.
Tout à fait.
D'origine ghanéenne, exactement.
C'est l'inverse.
Voilà,
eux,
c'est l'inverse.
Et on apparaît souvent avec des joueurs qui ont les deux nationalités nigériane et anglaise. Ça arrive aussi souvent. Comme le Kamsaka par exemple.
Madoké, il est passé face à. Attention, le ballon de Rhys James derrière, c'était vers Anthony Gordon et ça a été dévié. Mais cette fois-ci, il y avait un décalage dans cette surface de réparation avec Madoké qui avait trouvé James et James du bout du pied qui arrive à centrer ras du sol. Mais derrière, il n'y avait pas d'attaquant anglais pour essayer de reprendre ce ballon le plus proche. C'était Gordon, le futur joueur du FC Barcelone. Mais première grosse frayeur là pour les Ghanéens. Et cette fois-ci, messieurs, le décalage avait réussi à être créé sur le côté droit. On va insister sur ce côté justement avec Rhys James, le travail de Semenyo pour faire sortir ce bloc là, c'est bien joué. Et là les Ghanéens, ils sortent tous en même temps, mais la lucidité technique là de Marc Guéhi pour se sortir du pressing de deux ou trois Ghanéens et pour permettre aux Anglais de rester très très haut. On a vu toute la qualité et surtout voilà, la lucidité d'un défenseur comme ça qui est pressé et qui garde la tête sur les épaules et qui se dit ok, pas de souci, je vais me sortir de cette situation et je vais servir mon coéquipier proprement.
Par contre, on peut en parler hein, du bloc bas, encore une fois. Hein, je ne veux pas insister dessus, mais là, quand tu vois les deux lignes ghanéennes compactes de cette manière, honnêtement, je pensais qu'on avait oublié un petit peu ce genre de scénario dans le football moderne, mais c'est en train de revenir. C'était parti un petit peu avec sous l'air un peu Guardiola, l'impulsion, sûr, ouais. Même les petites équipes jouées. Et là, depuis le début de cette compétition, mais c'est aussi dû à ce format de Coupe du Monde, hein, on l'a dit, hein, comme quoi les meilleurs troisièmes peuvent sortir. Et là, on voit de plus en plus de blocs bas. Et je le redis encore une fois, mais c'est au dépend de la beauté du football, du spectacle. Et je trouve ça quand même dommageable.
T'as jamais fait ça avec le Luxembourg?
Bah si, on l'a fait. On était le Luxembourg et on l'a fait il y a 15 ans. Mais après, oui, on a évolué. Ben bah ouais, mais bon. Oui. Je préfère perdre avec les honneurs que jouer de cette manière. Bon, après, okay, ça chacun va midi à sa porte.
Tu serais heurté à ton sélectionneur s'il avait imposé ça?
Sélectionneur, c'était moi, Nico. Tu sais bien.
C'est toi qui décidais en plus. D'accord.
Ça m'est arrivé de changer la tactique en cours de route. Ouais.
Allez, la 13e minute, coup franc intéressant pour les Anglais face au Ghana. Edgar Grollo.
On est à 10 mètres de la surface de réparation, très très légèrement à gauche, mais vraiment dans l'axe pour les Anglais, avec deux Anglais, ça combine. Declan Rice, la frappe lointaine après cette petite combinaison avec Rhys James, et ça file au-dessus de la cage de Benjamin Assaré, côté ghanéen. 14e minute de jeu, toujours 0-0 entre l'Angleterre et le Ghana, la petite combinaison, mais le mur qui est monté assez vite, et Declan Rice qui a dû se précipiter et qui envoie ce ballon assez largement au-dessus finalement de la cage d'Assaré.
Vous écoutez RMC, je vous rappelle que l'on direct jusqu'à 5h du matin. Le programme, il est magnifique ce soir également. C'est la dernière salve de la deuxième journée. Après, on partira sur des matchs en simultané pour chaque groupe, hein, pour respecter l'équité. Deux matchs par groupe qui démarreront au même moment. Ce sera à partir de demain pour le début de la troisième journée. On aura également Panama-Croatie, l'autre match du groupe à 1h du matin. Ce sera en direct sur RMC. Et puis Colombie. RDC à 4h du matin, l'autre match du groupe après la victoire 5-0 du Portugal face à l'Ouzbékistan. Le basket, est-ce qu'on peut aller pour la finale match 5? On va aller retrouver Diane Carlotti sur place entre le Paris Basket et l'Est Monaco Basket. Où en est-on, Diane?
C'est la mi-temps ici, porte de la Chapelle. Monaco est toujours devant, 55-52. Le match va reprendre dans 2 minutes 30 environ. Du côté de Monaco, les gros joueurs n'ont pas beaucoup marqué. Elie Okobo est à 6 points. La star Mike James, qui n'a pas joué depuis le 5 mai pour raison financière, est à 2 points seulement. Ce sont plutôt les lieutenants qui prennent les rênes au niveau des points. Et puis les Parisiens, eux, jouent plutôt un jeu collectif. Presque tout le monde a marqué. Seul l'ailier Enzo Charvin n'a pas encore débloqué son compteur dans le match. La fin de la mi-temps sera sifflée dans 2 minutes et 10 secondes et Monaco mène toujours de 3 points d'avance.
Merci Diane.
Déclin Rice dans la surface. Gordon, le ballon retrait vers. Ça a été dévié. Ça va revenir avec Madueke. Elliot Anderson qui a tenté de reprendre. Et finalement, c'est venu très très rapidement sur lui. Là, il était parfaitement placé dans l'entrée de la surface de réparation. Est-ce qu'il a un tout petit peu trop tardé? Peut-être, mais en tout cas, les Anglais qui étaient de nouveau dangereux, on sent quand même, Julien, que les Anglais se rapprochent de plus en plus de cette surface de réparation.
Ouais, c'est sûr, il va falloir combiner dans ces petits espaces-là. Moi, j'ai beaucoup de mal, par exemple, avec l'action là d'Anderson. À un moment, tu sais très bien que si tu contrôles le ballon dans la surface comme ça, où tu as autant de joueurs dans un petit périmètre, qu'il va falloir, tu n'auras pas le temps de contrôler, en fait. Donc prends-la son contrôle, ouais. Prends-la tout de suite comme elle arrive. Là, de vouloir contrôler le ballon là, pour un joueur de son talent en plus.
Oh, même attention, si elle est pas Spence, c'est sur le côté gauche, le centre, ça revient dans les pieds de Declan Rice, dans la surface de réparation. Et cette fois-ci, ça a été dévié par Adjeti. Mais une nouvelle fois, c'est passé. Et vraiment, 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 on sent des Ghanéens qui reculent de plus en plus. Et surtout qui se rapprochent de leur propre cage là. Les Anglais, si ça continue comme ça, risquent d'en avoir plus d'une. Des occasions comme celle d'Eliot Anderson ou là de Declan Rice à l'instant. Corner à venir pour les Anglais qui va être tiré de la gauche vers la droite par Declan Rice.
En tout cas, on a compris un petit peu l'animation offensive mise en place par Torrell. Ça va être vraiment de passer sur les côtés.
Ouais, le demi-espace gauche, ça fait deux fois. Mais là, encore une fois, Rice, il doit frapper sans contrôle. Il contrôle à partir du moment où tu contrôles, Opoku revient. Et c'est encore plus compliqué après.
Ouais. Il n'est pas sur son bon pied, il essaye de se la mettre un petit peu mieux, mais il n'a pas réussi, il a perdu son temps. Et Anderson, pareil, il essaye de se mettre un petit peu mieux pour pouvoir, pourquoi pas, vraiment ouvrir le pied, mais c'était trop tard. Le centre de Rice au deuxième poteau, ça va être dévié, ça va revenir dans les pieds anglais avec Rhys James qui laisse finalement le ballon sortir en touche juste devant les yeux d'Antoine Semenyo. Et les Anglais qui vont garder cette possession. À noter que Pickford est quasiment dans le rond central là, et ça va être un enjeu évidemment pour lui de gérer la profondeur peut-être dans le dos de la défense anglaise. James sur le côté droit. James, il y a la proposition de Bellingham, il préfère attendre un petit peu, centrer vers le point de pénalty. Ça a été repoussé, ça va revenir avec Jordan Ayew au duel avec Ezri Kansa. Et qu'est-ce qu'il signale l'arbitre? Il signale une faute de l'international anglais, et ce sont donc les Ghanéens qui vont pouvoir tranquillement se relancer. Cette faute là elle va leur faire du bien et ils vont prendre du temps, je pense. Ça peut peut-être leur faire du bien, Max, aussi d'avoir une toute petite séquence de possession, de calmer le jeu un petit peu face aux tentatives et aux vagues anglaises ici à Foxborough.
Ouais, exactement, c'est ce qu'il faut faire quand t'es une plus petite nation, que t'as pas forcément la possession, quand t'as la chance d'avoir le ballon, voilà, il faut arriver à faire tourner. Alors après, à voir aussi comment va être le pressing anglais, et visiblement il a pas l'air très très intense non plus, mais on sait qu'on récupère aussi en phase de possession, et c'est ce que le Ghana doit faire.
Ouais, le ballon au-dessus vers Iñaki Williams qui vient faire une petite poussette dans le dos de Marc Guéhi, et il y a une faute qui est signalée par l'arbitre. Effectivement, ça semblait un petit peu limite. Alors est-ce qu'il a, ouais, il a signalé une faute. Il a signalé une faute, et les Anglais qui jouent rapidement et qui vont pouvoir se relancer. Mais une nouvelle fois, ce long ballon vers Iñaki Williams qui ne donne rien, qui n'est pas forcément très très bien senti, c'est compliqué, et tu sais très bien qu'il ne va pas pouvoir en faire grand chose, surtout.
Voilà. Et puis c'est frustrant parce que je pense là évidemment au milieu de terrain ghanéen qui vient de courir pendant presque 18 minutes, a la chance de pouvoir avoir le ballon, et le défenseur central qui décide. Alors ça doit être une consigne du sélectionneur, j'ai pas de doute, mais parfois justement il faut être un petit peu patient, attendre qu'il y ait des ouvertures côté ghanéen pour éventuellement faire cette passe-là. Là, elle est trop rapide, et aujourd'hui à ce moment-là les Ghanéens vont être obligés encore de courir pendant 2, 3, 4 minutes, et c'est vrai que c'est frustrant quand tu es sur le terrain.
Exactement. 19e minute de jeu ici à Foxborough. On est au sud de Boston, au sud-ouest de Boston, et toujours 0-0 entre l'Angleterre et le Ghana, les deux équipes qui sont imposées lors de cette première journée et donc qui peuvent se qualifier officiellement en cas de victoire ce soir, s'il y a une victoire. Kansa qui a le ballon, les Anglais qui ont récupéré très très rapidement cette possession, et les Ghanéens qui n'ont pas l'air d'avoir envie d'activer un pressing. Ils l'ont fait sur quelques petits instants très précis de ce match, mais clairement sur des moments où ils sentent qu'ils peuvent faire reculer ce bloc ou alors récupérer le ballon parce que la situation est ce qu'elle est. Mais de manière générale, il n'y a aucune volonté de vouloir faire un pressing côté ghanéen. Il y a plutôt la volonté, j'ai l'impression, de créer un embouteillage, Max, vraiment dans l'axe de ce terrain pour forcer les Anglais à passer sur les côtés. Le problème, c'est que les Anglais sont passés un petit peu trop facilement sur les côtés depuis le coup d'envoi.
Ouais, je suis d'accord avec toi. Je pense qu'on a très vite compris aussi que les Ghanéens vont se contenter du point du match nul, hein, de la manière dont ils défendent le bloc.
Ça peut tenir, franchement, sincèrement.
Bah, c'est pas conseillé.
C'est un miracle,
maintenant, ils bloquent quand même bien l'axe du milieu de terrain, on l'a vu. Donc, ils obligent les Anglais à passer sur le côté, même si je suis d'accord avec toi, pour l'instant, ça fonctionne pas énormément.
J'irais même plus loin. Non seulement tu joues pour le match nul, mais tu peux aussi jouer une petite défaite.
Je te le dis encore une fois,
c'est parce que le gouvernement général, pour moi, peut te permettre avec 3 points d'être qualifié pour les scènes de finale.
On parlait un peu plus tôt des XG. Je serais pas étonné d'avoir le Ghana à la fin de ce match avec un score au niveau des XG très faible.
Pour l'instant, il est à zéro.
C'est quand même dommage. Une nation comme le Ghana, avec les individualités, est-ce qu'il n'y a pas mieux à faire?
Doucement, c'est plus le Ghana qu'on a connu.
Je sais,
plus le Ghana 2010.
Oui, bien sûr, mais t'as quand même des joueurs qui tiennent la route. On est sur le là aujourd'hui.
Alors, ce qui agite beaucoup le pays en Angleterre, là, c'est le fait que Jed Spence, alors on parlait pendant après les hymnes et pendant la poignée de main entre les joueurs, que Jed Spence est le seul joueur anglais à ne pas avoir serré la main de Thomas Partey. On en avait beaucoup parlé cette semaine. La fédération anglaise avait même officiellement communiqué là-dessus en disant on laisse la liberté aux joueurs s'ils le souhaitent, ce ne sera pas une consigne venant de notre part. S'ils veulent serrer la main de Thomas Partey, ils pourront le faire. S'ils ne veulent pas le faire, ils pourront aussi ne pas le faire. Et le seul à ne pas l'avoir fait, effectivement, c'est Jed Spence.
Je rappelle que Thomas Partey est inculpé pour viol et qui comparaîtra en procès pour ce chef d'accusation en 2027.
Il a été sifflé très nettement par les supporters anglais à l'annonce de la composition d'équipe du Ghana avant le match.
Le Canada n'a pas laissé entrer sur le territoire pour le premier match face au Panama. Il a obtenu l'autorisation pour entrer sur le territoire américain et jouer ce match. Thomas Partey, bien sûr, intéressant. Donc seul Jed Spence n'a pas voulu serrer la main.
Ouais, tout à fait.
D'accord. Donc,
tout le monde, tout le reste.
Tu connais le personnage, t'es surpris ou pas la personnalité? Non, je suis pas
surpris. Alors je sais pas après jusqu'où on peut.
N'est pas ses convictions.
Ses convictions. Alors par exemple, Jed Spence, c'est une histoire très 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 intéressante. Déjà parce qu'il a beaucoup galéré pour en arriver à ce point-là. C'est un joueur, un des rares joueurs musulmans, si ce n'est peut-être même le premier joueur musulman à jouer pour l'Angleterre, il me semble. Ou en tout cas, ils sont pas nombreux dans l'histoire du football anglais. C'est un joueur qui a été élevé dans une famille où il y avait beaucoup de mamans, et la maman, la grand-mère, les sœurs.
Et dans l'univers très féminin, quoi.
Tout à fait. C'est peut-être aussi pour ça que dans ses convictions à lui, notamment sur le respect des femmes, etc., il n'a pas voulu serrer la main de Thomas Partey.
Faut-il être sensibilisé uniquement parce qu'on a été élevé entre sœurs et mère?
Pas du tout. Oui.
On a tous une mère. Hein.
C'est sûr.
Même, voilà, la réalité, c'est celle-ci. Alors, insolite.
Il y a un petit arrêt de jeu. Ouais.
Parce que, alors attends, ce qui est intéressant là, tu peux nous décrire ça. On joue la 23e. Il y a 0-0 entre l'Angleterre et le Ghana. Dans à peu près 2 minutes, on aura la pause fraîcheur. Sauf que, Edgar, j'ai l'impression que tout le monde est en train de la faire déjà pendant l'arrêt de jeu.
Non, alors en fait, ils ont un petit peu triché parce qu'il y a eu un gros choc entre Rhys James et Jordan Ayew, les deux hommes qui sont restés au sol pendant bien 2 minutes au moins, Rhys James même 3 minutes. Et pendant ce temps-là, les joueurs ont cru qu'il y avait une pause fraîcheur ou en tout cas en ont profité pour faire la pause fraîcheur parce que cette pause fraîcheur vient autour de la 20e minute. Et l'arbitre, c'est arrivé au point où l'arbitre a dû leur faire signe, non, revenez sur la pelouse, on va jouer, la pause fraîcheur ce sera après. Et donc les joueurs qui se sont déjà un petit peu rafraîchis, même s'il fait environ 20 degrés ici à Foxborough, et il pleut un petit peu, donc elle n'est pas vraiment nécessaire.
Pause fraîcheur à venir.
Il y aura une double pause fraîcheur.
Et par rapport
une rémunératrice.
C'est pour compenser avec la deuxième période de l'équipe de France hier où il n'y en a pas eu, je pense.
Exactement. Et par rapport à mon expérience, ça nous est déjà arrivé d'avoir ce genre de situation et pour le coup, il combinait dans ce cas-là. L'arbitre disait ouais, mais si t'es à la 20e, 21e, 22e, bon, il disait allez hop, on fait sauter la pause fraîcheur, on la prend sur un arrêt de jeu.
Très bien, j'aime
ça. Beaucoup mieux, c'est ça.
Mais bon, ils ont envoyé comme la pub, les diffuseurs, j'imagine.
Bah évidemment.
Évidemment.
Je
rappelle, c'est 2 millions de dollars.
C'est pas très cool pour Rhys James qui était au sol.
Chaque pause fraîcheur.
Ouais, bah écoute, il peut boire au sol.
C'est vrai.
On va dire ça. En tout cas, il s'est relevé. Il est de retour sur la pelouse comme Jordan Ayew et là il va y avoir une touche pour les Anglais. Non, finalement il y a une faute même qui a été signalée. On est au niveau de la surface de réparation anglaise. Declan Rice qui ne se presse pas pour remonter ce ballon, qui cherche une solution autour de lui et qui vient la trouver avec Anthony Gordon qui est redescendu pour toucher cette balle et pour chercher et trouver Elliot Anderson au milieu de terrain. Le ballon dans les pieds maintenant d'Ezri Kansa. Anderson qui s'est positionné presque en rampe de lancement sur cette action. Lui, l'un des chouchous évidemment de Thomas Tuchel qui l'a installé dans le 11 de départ anglais. Le long ballon vers Madueke, ça va revenir. Jordan Ayew par contre, il a un gros bandage à la tête après ce choc avec Rhys James, même s'il s'est relevé un petit peu plus tôt. Lui, il a visiblement une petite séquelle, ou en tout cas il a dû avoir un petit peu de sang, je pense, puisque il a vraiment été bandé tout autour de la tête. Jordan Ayew, le ballon qui est toujours dans les pieds anglais avec Declan Rice devant la surface de réparation, c'était très très compliqué. Et Cibo qui va pouvoir dégager les Ghanéens, mais on voit, hein, c'est symptomatique, messieurs, la perte de balle instantanée de la part des Ghanéens. Ça, c'est très compliqué quand tu défends et qu'en plus de ça tu rends le ballon tout de suite et tu redonnes à chaque fois une cartouche à l'Angleterre, surtout très très haut comme ça. Ça va leur compliquer la tâche. C'est un petit peu comme un rebond au basket. Si tu donnes toujours une deuxième, une troisième, une quatrième option aux Anglais, forcément c'est plus difficile.
C'est frustrant et fatigant, ouais, je suis d'accord avec toi. Pour l'avoir bien connu cette situation, Nico Jamin aime bien me le rappeler avec le Luxembourg.
Et oui.
Quand t'as la chance de pouvoir récupérer le ballon, enfin moi en tant que défenseur, j'étais très très frustré après quand mes offensifs perdaient le ballon trop vite.
Maxime Chano, 72 sélections avec le Luxembourg.
72 4 buts, t'as oublié de le dire.
4 buts pour un défenseur central.
Contre l'Italie.
Les 4 sur corner, sur coup franc
Coup franc, pénalty, je savais tout faire.
Ah, pénalty, il y a 3 pénalty, c'est ça.
Dont un pied gauche d'ailleurs contre.
Tiens-toi bien. Est-ce qu'il y a des images de ça?
Le grand Saint-Marin.
Il y a des images.
Pied gauche contre Saint-Marin.
Saint-Marin.
Victoire.
Les National League.
Ah, la pause fraîcheur. Qui est sifflé ici, enfin la pause fraîcheur, 2 minutes après la pause fraîcheur précédente. Et alors à noter, Maxime, que t'as quasiment les mêmes statistiques en sélection que Declan Rice. Voilà, fais ce que tu veux de cette information qui fait de sa 75e cap aujourd'hui pour 7 buts.
Je trouve que 72 sélections avec le Luxembourg valent bien mieux que 75 avec l'Angleterre. Après, bon.
D'ailleurs, qu'est-ce qu'il a gagné, lui, avec l'Angleterre? Qu'est-ce qu'il a gagné?
Rien. Exactement.
Ouais, moi, qu'est-ce qu'il a fait?
Comme toi.
Mais j'ai pas plus gagné.
Qu'est-ce qu'il a fait, Rick Hunter?
Mais t'as pas gagné la 4ème division de Ligue des Nations?
C'est un peu trop cher aussi, il faut respecter ça. D'accord. Faut qu'on paye tes déplacements, ton 5 étoiles, là, à Boston, mon cher Edgar. Donc, on fait une pause rapide, on revient. 0-0 entre l'Angleterre et le Ghana après 26 minutes. À tout de suite.
RMC After Live, intégrale Coupe du Monde.
Nicolas Jamin.
Toujours encore à Foxborough, dans la banlieue de Boston. 0-0 entre l'Angleterre et le Ghana. Le basket, match 5, finale du championnat de France entre le Paris Basket et l'AS Monaco. 2 victoires partout pour l'instant. Où en est-on? Diane Carlotti sur place.
Eh bien, Nico, c'est les Parisiens qui ont repris la tête de ce match. Ils viennent de marquer à l'instant 70-64. Écoute, c'est très serré. Les deux équipes se rendent coup pour coup. Le joueur le plus en vue pour le moment, c'est l'Américain Blossom Game, hauteur de 21 points jusqu'ici. D'ailleurs, il y a 3 joueurs monégasques qui sont au-dessus des 10 points. 0 du côté parisien. Il reste 4 minutes 20 dans ce 3ème quart-temps et les Parisiens mènent de 4 points, 70-66.
À tout à l'heure, Diane, match saut, 5ème match extrêmement chaud qu'on va suivre sur RMC. Ah, les fins de match au basket, c'est passionnant, bien sûr. Le duel entre l'Angleterre et le Ghana sous les yeux de David Beckham. Il n'a pas encore été anobli, ici.
Si,
un demi sœur David Beckham. Ouais,
il a longtemps attendu, il a vraiment tout fait pour. Et
c'est vrai.
Arrivé que. Il a tout fait, tout ce qu'il pouvait faire.
Qu'est-ce qu'il faut faire?
Alors, il faut. déjà, c'est pour ce que tu as fait dans ta vie professionnelle,
oui, peu importe
ton travail, mais aussi ce que tu fais en dehors, et notamment, bien sûr, ton comportement.
Donc, aucun débordement, aucune grossièreté.
Ce qui n'a pas été son cas. Ce qui n'a pas été son cas pendant très longtemps, on le sait. Donc forcément, ça a mis un petit peu de temps à venir et ça a fini par arriver. Donc, sœur David Beckham avec un des garçons. Mais vous savez que un des garçons de la famille Beckham ne parle plus à papa, à maman. C'est complètement détaché.
Oui.
Brooklyn, c'est complètement détaché de ce qui fait les choux gras de la presse tabloïde anglaise, notamment. Enfin, pas que anglaise, hein, américaine aussi, puisqu'il s'est marié avec une américaine.
C'est un peu comme le prince Harry quelque part.
Très riche héritière.
Comme le prince Harry,
ça ressemble un petit peu.
Ouais,
c'est ça. Et donc là, c'est un autre des garçons de Beckham qui est avec lui, et puis avec Simon, l'agent historique de David Beckham.
D'accord. Là, il les connaît tous. Et ce qui est fort avec Julien Laurent, c'est que eux aussi le connaissent.
Oui. Très étonné.
On s'est croisé avec David des fois.
J'étais très très étonné hier au stade à Philadelphie. Beaucoup de gens connaissaient Julien.
Bon,
on l'a arrêté de part et d'autre, gauche, droite.
Mais j'allais dire à Julien, tu dois pas être loin, toi, d'avoir le titre de noblesse, mais après, t'as dit qu'il fallait pas dire de grossièreté, et donc je savais que c'était
pas. Et tu sais, tu n'as pas le droit, quand t'es étranger, tu peux pas être sœur. C'est pour les Britanniques.
Alors, ouais, il doit y avoir d'autres distinctions, non?
Pourquoi tu l'as pas, quoi?
Tu peux avoir le.
Il doit y avoir d'autres distinctions.
La Légion d'honneur et tout ça qu'on a en France, ouais, mais c'est pas la même chose. Moi, j'aimerais bien être sœur Julien Laurent, t'as vu, c'est.
Waouh!
Oh, t'es déjà frère.
Frère Julien Laurence.
Frère Julien Zamba.
Mais il progresse, Maxime Chano, en humour. Hein,
il est bien.
J'ai passé une après-midi entière dans un pick-up blanc avec Nico Jamin à l'arrière. Je peux vous dire que.
Oh là là.
Niveau blague. Ah ouais,
un jour, je posterai les photos sur Instagram. On rigolera.
Ça, faut que tu déclares en heure sup.
Ah ouais, c'est.
D'ailleurs, voir Maxime Chano torse nu dans les rues de Philadelphie, le borough de Philadelphie en plus, dans un coin où ça craignait un tout petit peu, exhiber ses muscles, ses tatouages, en mangeant un cheesy steak sous 40 degrés, ça valait le coup. Hein, pour,
Après, une adresse trouvée par Nico Jamin, un peu
tout à fait.
On l'a conseillé.
Grâce à la dame de l'hôtel, très sympa. Grâce à Emma de l'hôtel. Voilà, exactement. Bon, puisqu'on veut te faire briller, on va poster également le lien des plus belles actions de Maxime Chanot en 20 ans de carrière.
Ça existe, ça.
Sur YouTube, c'est dans 3 minutes 30. Hein, c'est pas long. Hein.
Allez, le match.
20 ans,
c'est un gif, je crois. C'est un gif, la compilation.
C'est un gif.
Merci les gars, merci pour votre soutien.
Edgar, c'est parti, on est dans le dernier quart d'heure du temps réglementaire en Angleterre-Ghana. Pas passionnant ton match.
Allez, 32e. Ouais, c'est pas du tout, c'est ce que j'allais dire. Hein. 32e minute, 0-0 entre l'Angleterre et le Ghana. Et c'est pas du tout passionnant. Les Ghanéens qui vont essayer, pourquoi pas, de se procurer une première occasion en envoyant tout le monde près de la surface de réparation parce qu'ils ont un coup franc. Mais je n'exagère pas qu'il est à 5 mètres de la ligne médiane. Il est quasiment collé à la ligne de touche et ils en profitent pour essayer de le mettre dans la boîte. C'est envoyé deuxième poteau par Jordan Ayew. Ça va être repoussé tout de suite par la tête de Marc Guéhi. Et en plus, il y a une faute sur le défenseur central anglais de Manchester City et ils vont pouvoir se relancer tranquillement. Mais on a senti dans ce choix tactique ghanéen de mettre le ballon dans la boîte d'aussi loin, c'est vraiment qu'ils n'ont pas l'impression qu'ils vont avoir énormément d'occasions dans le jeu et qu'ils profitent de chaque mini opportunité sur coup de pied arrêté pour essayer de mettre le ballon devant. Et là, c'était très très compliqué.
Mais les Ghanéens ont fait le tir du chemin, Julien, là, sérieusement. Et ça peut tenir comme ça, encore une fois.
Ouais, ça peut tenir. Ça pourrait. Alors après. Mais de toute façon, c'est ce qu'on disait tout à l'heure. Moi, un joueur comme Semenyo, et même un Iñaki Williams,
quel
la rigueur.
Pour lui. C'est le mec qui bosse avec Guardiola, on lui demande. Ben, après, c'est pour le pays.
Donc, hein. Semenyo, pour l'instant, les stats de Semenyo, hein. 2 passes réussies sur 2.
Oh là 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 là.
3 touches de balle. Il a touché le ballon 3 fois. Ça fait 33 minutes qu'on joue.
Dingue.
Antoine Semenyo, un des meilleurs joueurs de première ligue la saison dernière, qui effectivement, tu l'as dit, Nico, joue avec Pep Guardiola dans un style de football bien différent de celui de Carlos Queiroz, vient de toucher le ballon 3 fois en 33 minutes. Ça fait une fois toutes les 11 minutes. Eh ben, franchement.
Où est le plaisir? Après, tu joues une Coupe du Monde pour
non,
ça.
À un moment,
niveau
tu stade, pas,
le plaisir. Niveau stade, 3 ballons.
Attention, Bellingham à la surface de réparation, le petit cafouillage, la frappe, elle est déviée par Thomas Partey. Ça va revenir dans les pieds de Bellingham sur le côté gauche maintenant avec Spence qui repique dans l'axe, qui écarte sur Madueke qui est à l'origine de cette action. Madueke qui vient provoquer. Madueke, le centre au deuxième poteau, ça a été repoussé par la tête d'Adjeti et derrière les Ghanéens qui vont enfin pourquoi pas pouvoir se relancer. Mais Bellingham qui essaie de récupérer ce ballon extrêmement haut et il y a une petite faute quand même là et les Ghanéens qui vont pouvoir respirer. Mais on sent à chaque fois le contre-pressing anglais pour essayer de récupérer le ballon le plus rapidement possible et Gideon Mensah qui s'est retrouvé dans une situation un petit peu complexe. Heureusement pour lui que l'arbitre a sifflé faute sur cette action parce que ça aurait pu être extrêmement dangereux.
Mais pour revenir à Semenyo, je trouve ça intéressant comme débat. C'est là qu'il faut mettre en avant justement tous ces joueurs. Alors lui, c'est différent parce qu'il avait peut-être le choix de pouvoir jouer pour l'Angleterre, tu l'as dit, mais qui a choisi le Ghana. Mais toutes ces grandes stars qui évoluent dans des clubs, je pense évidemment à Haaland, qui sont, bon, même si la Norvège c'est un peu mieux, mais Kvara en Géorgie ou un peu plus loin Gareth Bale niveau Pays de Galles, qui ont tellement l'habitude d'avoir joué dans des grands clubs
Zlatan
à côté de grandes stars et qui se retrouvent entre guillemets dans des équipes nationales un peu plus faibles. C'est très très compliqué. Il faut arriver justement à switcher, te dire que t'es plus forcément.
Oh, il est passé Gordon, le centre vers le point de pénalty, ça a été repoussé, ça va revenir. Peut-être non, mais là il y avait pour une fois des espaces pour Anthony Gordon lancé sur le côté gauche. Et pour l'instant, il est à son avantage hein, face à Senaya. À chaque fois qu'ils sont en duel, les deux hommes, c'est arrivé déjà 2-3 fois dans ce match. Il est passé Anthony Gordon, il est lancé une nouvelle fois par Elliot Anderson. Et cette fois-ci, la bonne intervention de la défense ghanéenne, on va pouvoir se relancer. Mais encore une fois, à chaque fois, il y a 3-4 joueurs anglais sur chaque porteur de balle ghanéen. Ils ont réussi à s'en sortir au Opoku qui a un petit peu plus de marge. Mais là, c'est Gideon Mensah qui, forcément, pressé par Madueke, laisse filer ce ballon en touche. Et les Anglais qui récupèrent extrêmement haut au niveau de la surface de réparation. Et là, ça a été félicité par tous les supporters anglais qui vont en plus entonner un petit chant. Alors, l'ambiance en plus de ça, en plus d'un match un petit peu ennuyant pour l'instant, l'ambiance est un petit peu timide. Mais il y a quand même, j'ai vu avant le match, une belle fraternité entre les Ghanéens, entre les Anglais. Il y a beaucoup de maillots jaunes dans ce stade aussi, des supporters des Black Stars qui viennent accompagner les supporters anglais dans une vraie bonne ambiance comme depuis le début de cette Coupe du Monde. Mais il va falloir corriger quelque chose hein, quand même côté Ghanéen dans les sorties de balle ou en tout cas la conservation de cette balle. C'est pas possible de le perdre aussi haut à chaque fois.
Julien. On parlait des stades de Semenyo, les stades d'Harry Kane pour l'instant, 35 minutes de jeu, 6 touches de balle. 2 passes réussies sur 4, c'est pareil, à un moment, même pour l'adversaire, en tout cas dans une configuration pareille, pour ton numéro 9, s'il peut pas plus participer au jeu, si tu peux pas lui trouver un peu d'espace, c'est, pour l'instant, c'est une journée de galère pour Harry Kane qui a zéro ballon, qui est sevré, quoi.
Ça nous offre un spectacle épouvantable, pour l'instant, entre Anglais et Ghanéens.
Et Max, pour revenir sur nos deux joueurs de Ligue 1 qui évoluent avec le Ghana, là, qui souffrent, hein, clairement.
Bensa, hein, et
contre les ailiers Senaya anglais. Hein, c'est sûr que c'est pas Pechao ni Abdelli, hein. Ça leur change un petit peu de niveau. Ah, mais c'est vrai. Voilà. Faut appeler un chat à chat, là. C'est
ouais, mais c'est une petite balle.
Ouais, Madueke, il est passé une nouvelle fois, justement. Le centre deuxième poteau vers Declan Rice, la tête de Declan Rice, le ballon qui était un tout petit peu trop pour le milieu de terrain d'Arsenal. Il est monté assez haut, mais il n'a pas pu vraiment prendre ce ballon comme il l'aurait voulu. Ça passe finalement au-dessus de la cage d'Assaré. Mais encore une fois, c'est Madueke qui était passé face à Gideon Mensah. Il t'a écouté, Max. Et effectivement, ils sont en grande difficulté, les deux latéraux d'Auxerre qui complètent cette équipe du Ghana sur les côtés.
Possession de balle pour l'Angleterre, combien selon vous?
Au moins 80%, ouais, j'allais dire
83-17, les amis. Voilà. 83% de possession de balle, et ça a monté à 85. Voilà.
Les Ghanéens qui repèrent le ballon encore trop vite, hein. Vous avez raison, messieurs. Hein. C'est,
ouais, c'est Edgar qui voit ça exactement. Ils n'arrivent pas à le garder, mais
c'est automatique.
Une volonté de le conserver, quoi. C'est-à-dire,
non, mais le milieu de terrain.
Vous casser les dents contre le mur.
Mais c'est quand même capable de faire mieux que ça, je suis désolé. Hein.
Bien bon, sûr.
Il faut regarder Carlos Queiroz. On parlait la dernière fois de ces entraîneurs-là, comme Bielsa, comme, alors, c'est des styles vraiment différents, mais à un moment, je pense qu'à certains points.
Moi, ils sont dépassés. Ah, on m'a regardé avec des yeux en me disant, tu dis n'importe quoi, ensemble, mais non, dans le football moderne, pour
moi. Mais c'est quoi l'idée, la finalité de ça, les amis? Parce que le Ghana ne gagnera pas la Coupe du Monde, on le sait.
Non, mais d'accord.
Ado, c'est quoi? C'est sortir d'une phase de poule, faire un 16e, on est content.
Mais
on n'a pas joué.
Aussi la manière.
En fait, une fois que tu sors de la phase de poule, si t'es une équipe solide, tu peux surprendre n'importe qui.
C'est fini. Tout ça pour ça, en fait, pour sortir en 16e dans une semaine. C'est quoi l'idée, en fait?
Pourquoi est-ce que tu vas chercher Queiroz déjà? Venu en mois de mars.
Ils ont changé d'entraîneur. Ils ont viré leur entraîneur à 10 semaines du début de la compétition. Ça. C'était Auto-Ado. Ils l'ont viré à 10 semaines du début de la compétition.
Si tu as une opportunité de recruter un entraîneur qui est mieux que celui que tu as, que tu changes parce que tu dis ça va être mieux avec le nouvel entraîneur, il faut qu'on le fasse, etc., etc. D'accord. Alors, faut pas oublier non plus que le Ghana n'était pas à la CAN, par exemple. Donc, c'était pas non plus comme si Auto-Ado faisait un travail extraordinaire, etc., depuis plusieurs années. Mais bon. Tu vas chercher Carlos Queiroz, sincèrement, ouais, Carlos Queiroz.
Incompréhensible.
Incroyable.
Il y a quand même de jeunes entraîneurs, de jeunes sélectionneurs qui puissent être en mesure de pouvoir faire quelque chose de mieux. Surtout quand tu vois un petit peu la manière dont le football se modernise, d'aller chercher des anciens comme ça qui ont encore la tête dans le tapis, comme j'ai dit, la tête dans le guidon, les pieds dans le tapis. Non, honnêtement, pour parler un peu plus sérieusement, mais c'est moi je comprends pas comment les fédérations n'ont pas un peu plus d'idées quand il s'agit d'aller chercher un nouveau
sélectionneur. C'est des réflexes du continent africain encore qui s'est un peu évaporé.
Et tu vois,
Claude Leroy.
Ouais, mais c'est intéressant parce
qu'il y a une semaine.
Mais c'est très intéressant parce qu'on parlait justement un peu du comment on pourrait dire, il y a absolument trop de respect vis-à-vis des nations européennes, et c'est la même chose avec les entraîneurs. D'aller chercher des entraîneurs, des sélectionneurs, excuse-moi, comme Claude Leroy, qui est ma foi,
78 ans, on l'aime beaucoup,
un sélectionneur ou un très bon entraîneur à l'ancienne. Est-ce qu'il n'y a pas d'autres options?
Bien sûr qu'il y a d'autres options.
Aujourd'hui, je trouve que tu décrédibilises en tant que fédération et tu décrédibilises le football africain.
Mais le meilleur exemple, finalement, c'est Jean-Louis Gasset, la Côte d'Ivoire. Je suis désolé, mais alors je sais.
Exactement.
Mais c'est exactement ça. C'est exactement ça. Et Merckx Faye et Jean-Louis Gasset. Et voilà.
Une journée de la CAN, Jean-Louis Gasset s'en va. Faye prend le relais, il gagne la CAN.
Fonctionne.
Bon, après là, c'est caricatural, mais c'est une réalité.
Non, mais c'est ça.
Ouais. Declan Rice qui est passé au milieu de terrain. Declan Rice, il a hésité à se projeter, finalement, il revient derrière. Mais pour revenir sur ce que vous disiez, sur la pauvreté de ce que nous propose le Ghana, Julien le disait en avant-match. Ce qui est inquiétant, c'est pas qu'il soit dominé par l'Angleterre. Ça, en soi, on peut le comprendre. Mais c'est leur premier match aussi face au Panama qui a absolument rien donné alors qu'ils avaient un adversaire qui était sur le papier moins bon qu'eux. Attention, peut-être une opportunité pour les Anglais. Non, finalement, il y a une position de hors-jeu signalée par l'arbitre de touche. 40e minute, 0-0, toujours ici à Foxborough entre l'Angleterre et le Ghana.
Et puis t'as quand même des joueurs, il y a du matos hein, au Ghana.
Oui.
Hein, on parle de Stéphane, Partey, Williams, Ayou. Bon, Ayou qui est vieillissant, mais je veux dire, t'as quand même des joueurs. Tu dois normalement mieux faire avec le matériel que t'as du côté du Ghana.
Bon, voilà. Ça raconte aussi le manque de confiance que Carlos Queiroz a en son équipe et en capacité de son équipe. Évidemment, rivaliser avec l'Angleterre, c'est dur.
Je pense pas que ce soit ça, c'est son style à lui. Il a toujours été comme ça. De toute façon, c'est pas un bon entraîneur non plus. Hein. Faut arrêter de.
Ah, David Beckham qui a acclamé ici, hein, quand même.
Ah bah,
star aussi aux États-Unis, évidemment.
T'allumes la télé dans ta chambre, là, c'est incroyable. Que lui.
Toutes les pauses publicités, il n'y a que lui.
Je pense qu'il prend. Là, ça va, tout va bien. Là.
Ça, c'est sa Coupe du Monde. Mais après, ça montre aussi les limites du football ici, aux États-Unis. pour que ce soit lui la tête d'affiche alors qu'il n'est pas américain de la Coupe du Monde. C'est quand même assez.
Et après, c'est l'image. Enfin, en soi. Julien,
oui, d'accord.
Bien que Beckham représente le soccer à l'étranger encore plus depuis qu'il est président. Depuis qu'il est président de l'Inter Miami. Mais je suis d'accord avec toi. Maintenant, est-ce que tu vas faire bouger les stars américaines pour aller voir un match de foot en dehors de New York et de Los Angeles? Non, malheureusement, parce que c'est pas le sport numéro 1, on le sait bien.
Bon, mais alors juste petite pour défendre un petit peu quand même cette sélection et carton jaune, attention d'abord le carton jaune pour Declan Rice sur une faute sur Opoku, le défenseur ghanéen, et il reste au sol d'ailleurs le ghanéen Declan Rice qui ne comprend pas ce carton jaune mais qui a bien écopé donc de la première sanction de ce match. Mais quand même, pour défendre un tout petit peu ou donner peut-être un début d'excuse au manque de créativité de cette équipe ghanéenne, n'oublions pas qu'il leur manque Mohamed Kudus qui est initialement le joueur le plus performant, la star de cette sélection, là où Semenyo pour l'instant a plus de mal à être performant en sélection et depuis le début de sa carrière a moins de bonnes performances avec la sélection qu'en club.
C'est vrai Edgar, sauf qu'il est blessé depuis janvier Kudus, donc c'est un moment, c'est pas, il s'est pas blessé là il y a 15 jours et il faisait partie du plan A et tout était construit autour de lui. Ça fait quand même longtemps qu'on sait qu'il sera pas à la Coupe du Monde et que donc ils ont pu s'adapter aussi et penser à autre chose que de...
Oh Semenyo, il a récupéré le ballon, il est en surface de réparation, Semenyo, ah il aurait dû enrouler, il aurait dû frapper, il aurait dû tenter quelque chose, il ne l'a pas fait. Jordan Ayew qui presse Elliot Anderson, il va récupérer ce ballon, Jordan Ayew toujours avec son bandage autour de la tête, là c'est bien joué de la part des Ghanéens. Pour une fois, ils se sont battus. Ils ont récupéré un ballon très très haut près du poteau de corner. Il est pris par trois Anglais, Jordan Ayew. Et alors là, j'ai l'impression, en tout cas, je ne sais pas si vous avez un meilleur angle de vue que moi, mais qu'il y a une petite erreur d'arbitrage puisqu'il donne la touche au Ghana. J'ai bien l'impression que c'est Jordan Ayew qui l'avait mise en touche. Les Anglais sont furieux, mais finalement, les Ghanéens qui vont pouvoir donc rester très très haut sur le terrain. 43e. Et enfin, le Ghana se montre. Et c'est Antoine Semenyo qui va jouer cette touche. Et il va la jouer, allez, à l'anglaise, j'ai envie de dire, longue dans la surface de réparation. C'est parti pour Semenyo, c'est envoyé au premier poteau, ça va lui revenir dans l'épée. Semenyo face à Madueke, il va pourquoi pas pouvoir provoquer un petit peu. Il est passé face à Madueke, c'est compliqué, le centre dévié par Rhys James, corner à venir pour le Ghana. Toute petite frayeur pour la défense anglaise dans cette fin de première période.
Tout est possible hein. C'est possible, tu vois.
Oui, c'est
football. Sur le micro temps fort de 1 minute 30,
c'est peu possible.
C'est pas, sur un corner, une déviation, un CSC, ouais, tu mènes à 0 à la mi-temps, et c'est normal. Parfait.
En 2 minutes.
Tant qu'il y a de la vie, il y a de l'espoir.
Exactement.
Mais c'est bien défendu sur Semenyo, hein, parce que Semenyo, au départ, on a cru qu'il allait pouvoir déborder et enrouler, pourquoi pas, enfin rentrer intérieur et enrouler. Et finalement, ils l'ont collé de A à Z. Il y a eu 1, 2, 3 défenseurs anglais qui sont mis sur lui. Il a pas pu enrouler sur l'action initiale. C'est parti. Le corner tiré par Jordan Ayew au point de pénalty. C'est repoussé par Kansa. Est-ce que ça va revenir côté ghanéen? Oui, le ballon qui est remis, mais n'importe comment, là, par Gideon Mensah. Et ça va permettre aux Anglais de se dégager. Et ça va revenir dans les pieds de Yerenki, celui qui avait marqué à la 95e minute lors de la première journée, mais qu'on ne voit pas du tout. C'est vrai qu'on n'a quasiment pas prononcé le nom des trois milieux de terrain de cette équipe ghanéenne. Sibo, Partey et Yerenki, même si là les Ghanéens qui essayent une nouvelle fois de se projeter rapidement, mais il y a un problème quand même, j'ai l'impression, au milieu de terrain. Et ça explique peut-être le fait qu'on ne les a pas vus, peut-être le fait que le Ghana n'arrive jamais à conserver le ballon ou en faire quoi que ce soit. Un joueur comme Thomas Partey, dont on n'a pas parlé sur le volet sportif, il est censé quand même pouvoir t'apporter aussi un petit peu plus de confiance et de stabilité au milieu de terrain.
Après, on doit aussi donner du crédit à Tuchel hein, dans la mentalité, et en particulier quand les Anglais perdent le ballon dans le contre-pressing. Où est-ce qu'ils essaient vite de récupérer le ballon? Ils agressent hein, presque hein, les Ghanéens. Et puis bon, il y a une réalité aussi. Hein, c'est, je pense, derrière, ils ont un peu de mal aussi techniquement, les défenseurs, sur leur première relance. Ce qui fait que c'est la raison pour laquelle les Anglais sont à 80% de possession de balle. Mais c'est vrai que c'est frustrant pour les Ghanéens, pour les milieux de terrain, tu l'as dit. En tout cas, j'aimerais pas être à leur place.
Oh, le long ballon de Gueye, il est magnifique vers Bellingham, le contrôle de la poitrine, et ça va partir finalement en corner, l'intervention d'Opoku, et le corner à venir une nouvelle fois pour les Anglais. Ah, non, c'est fini, c'est parti en touche, hein. Alors, est-ce que c'est parti en touche ou en corner? Madueke qui va donner le ballon à Declan Rice, et ce sera bien visiblement un corner pour les Anglais. On va rentrer bientôt dans le temps additionnel, messieurs, et il y aura 6 minutes en plus ici à Foxborough. On n'est pas loin de Boston, on est aux États-Unis. C'est la Coupe du Monde, la deuxième journée, et l'Angleterre qui veut faire le 2 sur 2 après avoir battu la Croatie 4 buts à 2 lors de la première journée. Declan Rice pour tirer ce corner. Il y a eu un corner ghanéen qui n'a rien donné il y a quelques instants, et cette fois-ci ce sont les Anglais qui vont avoir une opportunité. On rappelle qu'ils avaient marqué sur cette situation lors de la première journée face à la Croatie avec un but d'Harry Kane sur un centre de Declan Rice. C'est parti pour Rice, tiré en direction du point de pénalty. Jordan Ayew qui repousse, et les Ghanéens qui se dégagent une nouvelle fois comme ils peuvent, un petit peu n'importe comment, directement cette fois-ci dans les pieds de Jordan Pickford qui s'est rapproché de la ligne médiane. C'est vrai qu'en termes de spectacle, c'est pas ça pour l'instant dans ce Angleterre-Ghana.
Oh. C'est dur hein, de jouer contre des blocs bas aussi comme ça. Peu importe quelle équipe tu es, même City, même le Barça, même tout le monde. Si tu marques pas tôt, après ça c'est quand même très très compliqué. Jusqu'au moins l'heure de jeu, jusqu'à ce que les autres fatiguent.
Ouais, c'est très très difficile. Et tu parlais d'Harry Kane, il faut justement aussi avoir une aisance technique. Il faut avoir un profil spécial hein, pour jouer contre des blocs bas. Harry Kane là qui est bien.
Il l'a pour le coup lui.
Oui, il l'a. Mais c'est pas le cas de tout le monde. On parlait de Cristiano Ronaldo qui était un peu moins performant. Tu sais, c'est aussi, et je le répète encore une fois, ce format de Coupe du Monde qui veut ça. Hein.
Oui,
Mbappé a marqué parce que les espaces se sont créés par Barcola contre le Sénégal, par exemple. C'est vrai que jouer contre des blocs bas, quand t'es attaquant comme ça, tu passes pas forcément des super.
Faut une frappe à 20 mètres ou dans le domaine aérien, prendre le dessus sur la défense éventuellement.
Bah, alors, ce qui est intéressant justement, c'est pour essayer de peser derrière la défense du Ghana, on voit un Jude Bellingham qui joue de plus en plus haut, qui vient parfois se positionner même à la hauteur d'Harry Kane comme là. Là, il vient toucher un ballon entre les lignes justement, il est trouvé, il peut décaler vers Madueke, mais à chaque fois, il est pris par deux joueurs ghanéens. C'est arrivé avec un petit peu de réussite dans les pieds de Bellingham qui n'a pas pu contrôler, qui en vend. Mais Bellingham qui, à l'image de ce qu'on l'a vu faire parfois au Real Madrid, qui vient se mettre dans la surface de réparation, qui vient être quasiment un autre attaquant et essayer de proposer d'autres options. Mais c'est très très compliqué pour les Anglais de trouver des espaces, comme vous étiez si justement en train de le dire.
Et oui, il y a des gens dans ce stade à Foxborough qui ont payé $5,000 pour voir ce match.
Ouais.
Sachez-le.
Ah oui.
L'un des pires matchs. Pire qu'un mauvais match de Ligue 1 ou de Première Ligue.
On a vu, ouais.
Pour voir une sorte d'arsenal de sélection, attendre l'adversaire.
Ouais. On a vu pire en Ligue 1, mais c'est vrai que ce match-là est moyen.
Ouais. Oui.
Mais bon, faut rester optimiste. Ouais, on a une belle Coupe du Monde, messieurs. Honnêtement,
il y a quasiment pas une occasion. Il n'y a quasiment pas une occasion.
Mais dû aussi au bloc bas.
Il y a eu la tête de Declan Rice, des frappes contrées, mais c'est tout.
Et des frappes contrées, c'est tout ce qu'il y a. Il n'y a pas assez de frappes aux 20 mètres où tu peux cadrer, où tu peux au moins inquiéter le gardien ghanéen. Ça manque quand même à ce niveau-là un peu de créativité.
Dans ces cas-là, c'est aussi la vitesse dans les transmissions des passes aussi.
Aucun tir cadré dans ce match.
Mais.
Aucun tir cadré en première période.
Deux tirs pour les Anglais, zéro cadré.
Et peut-être là, avec Declan Rice, Harry Kane à la surface de réparation, Harry Kane qui se met sur son pied gauche, la frappe d'Harry Kane, mais encore une fois, il avait quatre défenseurs devant lui, et là c'est Adjiti qui vient mettre ce ballon en corner, mais alors là c'est très bien défendu pour le coup hein, sur Harry Kane, mais qu'est-ce que c'est compliqué, il n'a pas un mètre pour s'exprimer, même si là, pour une fois, tout, ils arrivaient à casser une ligne côté anglais.
Et malgré tout, Harry Kane, hein, avec trois défenseurs autour de lui, qui arrivent à se mettre en position de frappe. Donc tu vois, ça montre un petit peu la qualité technique de joueur qui avait très très bien combiné avec Declan Rice.
Le corner pour l'Angleterre, 0-0.
Allez, peut-être une dernière cartouche pour eux. Il reste 2 minutes 30 dans le temps additionnel de cette première période. 0-0 entre l'Angleterre et le Ghana. Declan Rice qui demande à Madueke de lui aussi se mettre devant la surface de réparation. Quasiment tout le monde est monté côté anglais. Le centre de Declan Rice était tiré au premier poteau. Ça a été repoussé par la tête de Senaya et ça va filer directement en touche. Ça va être joué rapidement par les Anglais qui demandent à tout le monde de rester très très haut. Mais ils n'ont pas eu le temps. Ils n'ont pas eu le temps. Et surtout, Kansa et Gueye leur ont dit d'attendre un petit peu, de patienter le temps qui se replace, alors que l'envie initiale de Declan Rice c'était de dire évidemment on va remettre ce ballon rapidement dans la boîte, mais finalement on va devoir repasser par derrière, reconstruire côté anglais, de nouveau peut-être buter sur le mur ghanéen, mais cette fois-ci ils ont réussi à casser la ligne avec Madueke dans la surface de réparation. Madueke, mais il y a quatre joueurs sur lui une nouvelle fois, et là c'est Kwasi Sibo qui peut récupérer ce ballon, et les Ghanéens qui pour le coup dans leur surface de réparation, dans l'axe du terrain, sont très très bien organisés. On critique le spectacle, mais ça défend très bien aussi.
Madueke était allé s'empaler, la tête baissée dans le mur ghanéen. Oui. Il avait une solution à droite pour décaler éventuellement. Quoi.
Il faut rester patient, il faut passer par le côté. Bon, il y avait une superbe passe d'Eliot Anderson entre les lignes, hein, qui avait cassé justement la ligne ghanéenne. Mais c'est vrai que derrière, Madueke doit être un peu plus malin, en tout cas un peu plus lucide dans son choix, décaler sur le côté et essayer justement de forcer un centre, parce que tu as Harry Kane en tant que numéro 9 du côté anglais et c'est une vraie force. Hein.
Il reste 1 minute 10 dans le temps additionnel, 0-0 entre l'Angleterre et le Ghana. Edgar.
Silo qui a été trouvé par Partey, le ballon maintenant dans les pieds de Caleb Yerenki qui décale sur le côté droit. Iñaki Williams qu'on n'a pas du tout mais alors du tout vu dans ce match, si ce n'est sur deux longs ballons qui n'ont absolument rien donné. Partey qui regarde à sa gauche, qui voit Opoku et qui va pouvoir le servir. Jordan Ayew qui est descendu pour faire un point de fixation, et les Ghanéens qui ont enfin une toute petite séquence de possession, même si là il y a un gros pressing derrière de Jude Bellingham. Opoku qui va allonger loin de devant envers Iñaki Williams, mais une nouvelle fois on l'envoie dans des conditions très très compliquées là, l'attaquant de l'Athletic Club de Bilbao qui ne peut rien faire sur ce long ballon, et j'ai l'impression qu'on a signalé de toute façon une faute sur Jérôme Apoku, le défenseur central ghanéen qui est dans tous les coups depuis le début de ce match, qui est intervenu pour contrer des frappes, des centres, pour intervenir sur des duels aériens. C'est sûr que forcément qu'on prononce davantage le nom des défenseurs ghanéens que des attaquants. On arrive à la fin de ce temps additionnel et je pense que l'arbitre ne va pas tarder à siffler cette mi-temps. C'est Benjamin Assaré, le gardien de cette équipe du Ghana, qui va jouer ce coup franc. On est dans le camp ghanéen, on va allonger le plus loin possible pour écarter ce danger, parce qu'on sait que c'est sûrement la dernière mi-temps ici à Foxborough. Mi-temps très ennuyante entre l'Angleterre et le Ghana, 0-0 après 45 minutes de jeu.
À tout à l'heure, Edgar, on va débriefer ça avec nos 32-16 supporters des Sea Lions. Julien Laurence vous attend, Maxime Chano également. Le basket, match 5, finale championnat de France. On approche de la fin de l'épilogue de la saison entre le Paris Basket et l'AS Monaco avec Diane Carlotti. Diane, où en est-on ?
On est entré dans les 6 dernières minutes de ce match. Monaco mène d'un petit point seulement, 87 à 86. Les Monégasques sont dans un temps fort. Les Parisiens ont concédé 4 paniers d'affilée alors qu'ils menaient confortablement. L'image de ce temps faible, bien c'est un shoot à 3 points manqué par Nadir Ifi et une perte de balle sur la séquence d'après. Le match s'emballe ici, chaque panier, chaque rebond parisien est célébré par toute la salle qui se lève. Je peux vous dire qu'on sent la pression du fin de match qui monte. Il reste 5 minutes 44 exactement et les Monégasques mènent d'un point, 87 à 86.
Génial, on va suivre ça dans un instant, on va faire une pause rapidement et vivre la fin de ce duel pour le titre du championnat de France avec toi, Diane Carlotti, Paris Basket, AS Monaco. Reste avec nous, 0-0 la mi-temps donc entre l'Angleterre et le Ghana. Vous écoutez l'After Live intégral Coupe du Monde RMC, 16h52 ici sur la côte est américaine, 22h52 en France. Merci d'être toujours avec nous, à tout de suite.